Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 54e épisode, l'épisode numéro 53. Donc, nous sommes le 11 août 2021. Oui, on est un peu en retard, c'est l'été. On se détend un peu dans les mises en ligne parce que c'est l'été, quoi. Et donc, aujourd'hui, petite équipe pour faire cet épisode-là. Une équipe où je suis accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Et oui, cet enregistrement est live, donc vous avez des gens qui rentrent directement sur le plateau.
Comme la plateau.
Bonjour Clément.
Bonjour Quentin.
Qui es-tu Clément ?
Alors moi je suis le Chief Revenue Officer chez Clever Cloud, donc je m'occupe de tout ce qui est revenu. Ça inclut les ventes et le marketing.
Mais est-ce qu'à la base, tu ne serais pas un tech à la base ?
Si. Quand on a fondé Clever Cloud, en fait, j'étais développeur. On s'est dit qu'il fallait des gens pour le commerce et le marketing et j'ai perdu à la courte paille.
En fait, Clément et moi, c'est ceux qui avons perdu chez Clever. On se tape la gestion de la boutique pendant que les autres peuvent coder tranquille. C'est un peu ça l'histoire. Et aujourd'hui, on a un super invité de Marc, qui est un copain, qui est un mec merveilleux, qui est un mec splendide, qui est vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vous demande à tous d'accueillir Baptiste Jamin. Bonjour
merci,
Baptiste.
Merci Quentin. Salut, bonjour aux auditeurs. Merci pour la description. Moi aussi, je me trouve splendide.
Baptiste, que fais-tu dans la vie ?
Écoute, je bosse chez Crisp. Donc Crisp, on est un système de support client par chat. Donc c'est une boîte que j'ai cofondée avec Valérian Salut. Et donc je suis CEO de cette boîte. Voilà.
Donc Crisp, pour ceux qui ne savent pas, c'est une solution que nous on utilise. Si vous allez sur notre site web, la chat avec laquelle vous pouvez discuter.
Le chat.
La chat, ouais, c'est pas pareil. La chatbox, en fait, j'étais parti sur chatbox. C'est du Crisp. Moi, c'est une solution que j'aime beaucoup. C'est une solution qui est pas chère, qui marche bien. Et Crisp, c'est une boîte pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et en fait, c'est des Nantais. Et pour être transparent avec vous, Baptiste et moi, on se connaît depuis un moment. Et par ailleurs, on a monté un autre truc ensemble. Baptiste est probablement la première personne à qui j'ai filé un coup de téléphone. Quand j'ai dit, tiens, il faudrait qu'on soit des respirateurs, j'ai appelé Baptiste, en fait. Et c'est donc le cofondateur et un des membres extrêmement actifs du collectif Makers for Life qui a fait le Maker avec moi.
Ouais, et avec 300
autres
personnes.
Mais du coup, on a quasiment vécu ensemble.
On a commencé à en faire comme ça.
Et Baptiste, c'est celui qui a pris le rôle de « je me tape toute la doc et je fixerai les problèmes les uns après les autres, surtout ceux auxquels j'y comprenais rien il y a deux jours. »
Exactement, ouais. Bah, faut bien que quelqu'un s'appelle ça. Hein.
C'est ça. Du coup, j'ai proposé à Baptiste de joindre à nous pour le podcast de cette semaine.
Tous les autres étant en vacances.
C'est pour ça.
Non, mais c'est parce qu'en fait, on a souvent des discussions techniques au coin d'une bière ici au Palace à Nantes. Pour une fois, vous voyez un endroit différent en fait pour ceux qui ont la vidéo. Après, nous nous mentons pas, hein, c'est de la radio filmée. La vidéo est pas si passionnante que ça. Ça vous permet de me voir grossir et de voir Clément aller de plus en plus vers la sexitude. De Wattels en proposant une tasse de Nescafé.
Il se dit qu'il a un petit côté Pierre Ninet.
Ah ouais ?
Pareil.
Bon, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, du coup, c'est dommage.
Maintenant, c'est enregistré, je peux plus y échapper. C'est foutu. Merci, les gars.
Bon, premier lien, lançons-nous. Le premier lien, c'est un article sur Cloudflare qui lance une nouvelle méthode pour répondre aux patent trolls. Peut-être avant qu'on rentre dans ce que fait Cloudflare, est-ce que Clément, tu peux nous expliquer ce qu'est un patent troll ? Ou pas du tout?
Ouais, en général, ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans le fait d'imaginer des brevets qui sont suffisamment vagues, nébuleux, de les valider et ensuite d'aller chercher des entreprises qui pourraient avoir une technologie qui serait similaire à ce brevet en fait, pour aller ensuite leur taper de la thune de façon
C'est encore plus manichéalique que ça. C'est-à-dire en fait, on fait ce qu'on peut qualifier de brevet à la con. Hein. Mm-hmm. On fait des boîtes sur une page A4 qu'on fait valider notamment aux États-Unis. Ça se passe souvent aux États-Unis.
C'est très États-Unis.
Europe, on
parce que la saloperie de brevet logiciel est très facile.
Et surtout, on va attendre qu'il y ait des boîtes qui fonctionnent et qui implémentent le concept de brevet. Donc, on va attendre que la boîte grossisse, qu'elle grossisse beaucoup. Et ensuite, une fois qu'elle est arrivée à plusieurs millions de chiffres d'affaires, voire même des milliards de chiffres d'affaires, on l'attaque et on va aller de front avec en espérant gagner et surtout réclamer de juteux royalties. Et donc Cloudflare, tu peux présenter Cloudflare ?
Donc Cloudflare, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boîte qui prend de plus en plus d'importance de plus en plus d'importance dans le web mondial, qui est une boîte qui en fait fournit à la base un système de CDN et d'interconnexion de réseau. Et en fait, ils ont mis des POP dans beaucoup d'infrastructures mondiales. Ils ont, je crois, 350 POP mondiaux. Ouais. Enfin, ils sont très importants. Et en fait, du coup, ils vont récupérer votre trafic et vous mettre derrière. Donc, ça pose beaucoup de questions de neutralité du net Cloudflare. Mais par ailleurs, c'est une boîte dont les services et la façon de travailler sont assez impressionnants. Enfin, je suis souvent, moi, très impressionné par la qualité de service et la vision qu'ils ont eue sur ce marché qui était le CDN, qui était un marché plutôt très élevé en prix, donc réservé à des clients qui avaient beaucoup d'argent. C'était un marché pépère, et eux, ils ont débarqué avec une offre gratuite. Donc, c'était surréaliste, en fait, quand ils ont débarqué. Ouais. Donc, ça a été une boîte massivement dopée aux investissements externes, mais comme les États-Unis savent en produire. Mais par ailleurs, ils ont réussi, je pense, à construire un écosystème, à construire quelque chose d'assez intéressant.
Et un Internet plus sûr, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une des rares boîtes capables de protéger d'une DDoS de plusieurs terras, en fait. Parce ouais. qu'ils ont des points de présence absolument mondiaux. Donc, en fait, l'idée de Cloudflare, c'est, en fait, ça va être littéralement votre DNS. Et donc, tout le trafic qui va arriver sur votre nom de domaine va être dispatché chez eux de manière géodistribuée. Donc, en gros, si vous avez des clients français, ça va se connecter sur un point de présence français. Si c'est des clients asiatiques, ça va se présenter sur un point de présence asiatique. Et eux, ils vont mettre des caches absolument partout. Donc, ce qui fait que si on a une DDoS de plusieurs gigas, voire même plusieurs centaines de gigas, et bien en fait, le trafic va être absorbé par les points de présence locaux. Et en fait, vous, sur vos serveurs, chez Clever, par exemple, et bien, il ne se passera littéralement rien.
Ouais, puis ils font de plus en plus de produits. Donc, il y a des pros et des cons contre Cloudflare. Par contre, c'est une boîte qui a très rapidement été dans le Rust. Une boîte qui, historiquement, fait beaucoup de Rust. Donc, nous, on suit depuis longtemps leurs travaux. Puis, c'est vrai qu'on discute assez régulièrement avec eux. Après, bon, évidemment, ils posent un problème vis-à-vis de la NSA parce qu'ils voient tout passer, etc. Enfin,
en tout cas,
on a un problème de prisme et de Cloud Act avec eux.
C'est des gens qui ont été très lumineux sur un truc. C'est la gestion des patent trolls.
Ouais.
Et c'est une boîte qui, maintenant, arrive aux millions de chiffre d'affaires et il commence très sérieusement à être attaqué par ce qu'on appelle donc, des patent trolls.
En bourse, hein, si je dis pas de conneries.
Ouais, ils sont rentrés en bourse
récemment. Ils ont fait une IP, ouais.
Et donc, en fait, tout le monde s'attaque à eux et ils ont une manière extrêmement intelligente pour contrer ces patent trolls qui leur réclament parfois plusieurs centaines de millions d'euros.
Ah ouais, d'accord. Juste pour mémoire, Cloudflare est rentré en bourse en septembre 2019 à $18 l'action. Et aujourd'hui, c'est quand même une action à $125.
Et franchement, ça les vaut.
C'est assez incroyable. Enfin, la courbe est très très belle, quoi.
Et donc, l'idée de Cloudflare va être, quand ils sont attaqués par un patent troll, d'offrir $100 000.
Ils font 430 millions l'an dernier, Cloudflare.
C'est vrai. C'est une belle bête. Et donc, en fait, Cloudflare va offrir, quand ils sont attaqués par un patent troll, $100 000 à quiconque est capable de prouver qu'il a une antériorité au brevet. Et donc, de facto, ça va annuler le brevet. Et donc, en fait, ça va annuler l'attaque contre eux. Et ils ont fait plier des boîtes comme ça, qui détenaient, qui étaient spécialisées dans le patent troll. Donc, des boîtes, des coquilles vides qui détiennent parfois une cinquantaine, une centaine de brevets. Et ils ont réussi à faire annuler comme ça chacun des brevets. Et annuler la totalité de la propriété intellectuelle.
Et puis, ils l'ont monté sous forme d'une alliance, non, c'est ça?
En tout cas, ce qui est extrêmement malin de leur part, c'est qu'ils ont une recette. Ils ont ouvert la voie aujourd'hui à une méthode pour pouvoir lutter contre les patent trolls. Parce qu'il faut savoir
en fait,
que
les patent trolls, je trouve que c'est un truc qui pourrit l'économie américaine. C'est vraiment un side effect pour moi de la loi américaine qui aujourd'hui pourrit l'économie. C'est des gens qui viennent se nourrir sur la bête en créant zéro value.
Et même,
c'est vraiment dégueulasse.
En plus, avec l'extraterritorialité de la loi américaine, en fait, ça peut pouvoir n'importe quelle boîte dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes une boîte française avec qui se fait attaquer par un patent troll américain. Au mieux, ça va se finir avec une simple réponse à une lettre d'avocat. Mais au pire, ça peut finir un procès qui va vous coûter 1 milliard, en fait. Enfin, 1 million, désolé. Mais ça peut aller beaucoup plus que ça.
Ça peut être monté.
Mais bon, un million pour une start-up française, c'est énorme. Enfin, pour n'importe quelle boîte, mobiliser 1 million juridique, c'est pas mal. Et donc, en fait, l'astuce de ce genre de boîte, souvent les patent trolls, c'est de réclamer beaucoup d'argent dès le début pour vous faire très peur sur les frais juridiques. Et donc, en fait, l'astuce de Cloudflare est absolument lumineuse. C'est plutôt que de perdre des millions dans un procès, autant payer quelqu'un qui est méritant, cash directement, quelqu'un qui a l'antériorité à ce brevet-là.
Ouais,
et donc, quelqu'un qui a fait un side project.
Pour prouver en fait que le brevet tombe, en fait. Et c'est un des points qui est, à mon avis, très intéressant dans leur histoire. C'est comment détruire des brevets qui n'ont pas de sens pour essayer de faire le ménage dans la quantité de brevets débiles qui traînent aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc, je trouve que c'est une innovation intelligente d'un point de vue juridique. Et je pense que c'est quelque chose dont on entendra parler. Et je pense que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer en France pour se défendre encore une fois contre les attaques venues parfois d'endroits non francophones. Toujours en parlant de Cloudflare, ils ont vraiment une mentalité de créer des choses collectives. Et en fait, ils ont lancé une initiative qu'ils appellent... je ne sais plus comment s'appelle l'initiative, mais c'est un truc sur la bande passante Internet. Parce qu'en fait, ils attaquent un peu ce que les gros GAFAM Cloud font. C'est-à-dire qu'avant, le cloud, c'était quand même quelque chose auquel tu payais en disant l'hébergement, tu payais la taille du tuyau et tu ne payais pas ce qui va passer dans le tuyau.
C'est ça, le flux et le stock.
C'est ça. Et en fait, AWS est arrivé et en fait, ils te calculent le débit entrant et le débit sortant de leur plateforme. Pour moi, ça pose un énorme problème qui est un problème d'enfermement des clients au sein d'une seule plateforme, vu que tu ne payes pas le trafic interne et uniquement le trafic externe est en quantité et non en débit. Et donc, à mon avis, c'est un énorme problème. Et aujourd'hui, ça représente dans la plupart des factures AWS quasiment la moitié. En fait, c'est entre 40 et 60% des factures. C'est du frais réseau. C'est-à-dire que vous voyez tous les services, les prix de ces deux machins, etc. La moitié en fait, des factures AWS des gens, c'est les flux réseaux qui sont en plus très compliqués à estimer et qui donc du coup coûtent juste une fortune aux gens.
Oui, pour en plus, Cloudflare, enfin Amazon en tout cas, paye pas votre peering Orange, c'est à la charge d'Orange. Donc en fait, et c'est une absurdité totale en plus leur modèle.
C'est pour ça qu'en fait, l'initiative qui s'appelle en fait la Bandwidth Alliance, elle a été créée en 2018 par Cloudflare. Ils ont rameuté un paquet de gens qui faisaient partie soit de l'hosting, soit des services web qui avaient un petit peu de trafic, etc. Et le but était de faire baisser en fait les coûts réseau en faisant justement du peering. Et Amazon n'a jamais voulu entrer là-dedans. Et fin juillet de cette année, en 2021, Cloudflare a commencé à faire des petits calculs dans une spreadsheet qu'ils ont publié d'ailleurs sur leur blog, où ils vont jusqu'à expliquer que, par exemple, les utilisateurs, ils payent 80 fois plus leur bande passante que ce que ça coûte à Amazon. C'est-à-dire que quand vous êtes client Amazon et que vous êtes aux US, vous payez 80 fois plus que ce que Amazon fait. Quand vous êtes
la
en Corée,
petite marge, quoi.
Quand
la
vous êtes en Corée, c'est quand même 3 fois
de 80 000%, quoi. Les mecs sont bien, quoi. Tu vois,
ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est quelque chose d'intelligent pour Amazon dans la mesure où ça va contraindre en fait leurs utilisateurs à pas sortir. Nous, on a plusieurs exemples de boîtes qui ne pouvaient pas migrer de provider de cloud juste parce que ça leur coûtait plus cher de sortir leur data d'Amazon. Et quand tu fais de l'entraînement de machine, de machine learning, de modèles, etc., le poids de cette donnée, il est monstrueux. Tu peux pas le sortir. Sortir ça d'S3 va te coûter presque toute ta trésor. Donc,
il me semble qu'il peut avoir des petites astuces parce que je crois qu'Amazon a des accords de peering avec d'autres systèmes. Je crois que je suis pas sûr.
Non, il n'y a plus d'accords de peering. En fait, ils te chargent pour tout le réseau comme des bourrins.
Non, mais il me semble que tu peux plugger un autre DC comme c'était un DC interne Amazon.
Tu payes quand même pour peering.
Putain, c'est complètement. Je ne suis pas client Amazon, mais.
Non. En fait, tu payes quand même ton peering. En fait, tu peux plugger pour avoir un Direct Connect. Il n'y a pas de souci. Par contre, le Direct Connect, on va te le payer en Direct Connect. Et encore une fois, là où dans tout le reste du marché, ce que tu vas payer, c'est la taille du tuyau.
Oui.
Les GAFAM Cloud, et donc Amazon a lancé ça, et en fait, tout le Azure monde et Google ont suivi. On crée ce modèle de facturation, qui est un modèle de facturation, qui est à mon avis un modèle de facturation qui est destructeur de la capacité de concurrence. Puisqu'en fait, si tu veux, un client qui aurait plusieurs fournisseurs se retrouverait à payer de la bande passante entre les fournisseurs, c'est à mon avis un modèle de facturation qui incite à un abus de position dominante de la part d'Amazon, pour être tout à fait franc avec vous, c'est quelque chose que je vais essayer d'aller défendre auprès d'autorités juridiques. Le problème, c'est que va expliquer aux autorités juridiques l'impact technique, tu vois, du prix du kilobit, tu vois, avec ça. Parce que pour moi, en fait, t'es sur un truc où, en fait, bah, tes clients, en fait, ils te disent, bah, nous, on aimerait bien tester Clever Cloud, mais pour ça, on a besoin de l'interconnecter avec Amazon. Et en fait, ça nous coûte 4 fois le prix du test Clever Cloud de le tester chez Amazon.
Oui, et on est sur des modèles complètement débiles, puisque de toute façon, la plupart du peering va être payé par le fournisseur d'accès du client final, en fait.
Ah oui, parce qu'en plus, en fait, si tu prends, si vous ne connaissez pas, il y a une association qui s'appelle le FRNOG, qui est globalement les gens qui gèrent le réseau en France. Donc tu vas retrouver les gens d'Orange, de Free, d'Iliad, de Juniper, des gros data centers, les Equinix, etc. Tous ces gens-là, en fait, vous allez les retrouver dans cette alliance qui est le FRNOG, et on se réunit 3 fois par an quand il n'y a pas Covid, et il y a une mailing list. On discute du poids du réseau. Et en fait, théoriquement, le peering, c'est bah, j'ai de la data à t'envoyer et de la data à recevoir de toi, j'ai de la data à t'envoyer et à recevoir de toi, et puis bah, on se met d'accord, et puis on s'envoie globalement nos flux réseau, et ça se passe bien, et puis bah, s'il y en a un qui fait un peu plus, bah, on s'envoie de l'argent. Le problème, c'est que ça fout le bordel dans le réseau Internet ces dernières années, parce que comme les flux de Netflix, d'Amazon, de Google, de Microsoft sont en train de prendre énormément d'importance, ben en fait, ils créent en fait une inadéquation de la relation, une distorsion complètement dans la relation. Et en fait, ils te disent, bah, si tu veux envoyer des mégaoctets chez moi, il faut payer. Et en fait, les fournisseurs d'accès à Internet, qui eux, ben, en fait, ils ne te fournissent pas accès à Internet, ils te fournissent l'accès à Google et Amazon. Parce qu'en fait, globalement, c'est ce que tu attends aujourd'hui de ton fournisseur d'accès à Internet. Se retrouvent dans une situation où ils doivent payer. Et en fait, la relation asymétrique déséquilibre l'équilibre du réseau, en fait, et fait que... C'est triste à dire, mais pour moi, la seule solution pour aujourd'hui réussir à recalibrer une qualité de prix sur le réseau serait d'aller vers un marché régulé comme celui de l'énergie, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la jungle. Et en fait, aujourd'hui, vous demandez à ceux qui gèrent l'opération du flux réseau français, ils disent oui, on envoie l'essentiel du réseau vers 3 AS. Les AS, c'est les numéros de gestionnaires réseau.
Oui, du Facebook, du Google et de l'Amazon.
Bah, Google, parce qu'ils ont, ils ont Google, ils ont YouTube. Il y a Netflix qui a ses propres AS. Hein,
oui, c'est pas faux.
Netflix n'est pas spécialement en fait hosté sur AWS. C'est un mythe qu'il faut raconter, debunk un de ces jours. Mais, moi, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment la boîte qui est censée avoir tout hosté chez AWS serait le deuxième client monde d'un des plus gros fournisseurs de serveurs du monde. Tu vois, il faudra qu'on m'explique un jour. Tu vois, enfin, c'est évidemment l'un des plus grands mythes de ce monde. Et en fait. Donc, ces gens-là, bien évidemment AWS, parce que tu as tout le trafic d'AWS, et en fait, c'est ces gens-là en fait, qui te capturent le flux réseau et qui désarçonnent. Et en fait, je trouve que donc, Cloudflare fait un truc qui est privé, qui est la Bytecode Alliance, avec le but de te mettre tout le monde dans un truc pour essayer de renégocier les tarifs réseau. Mais en fait, pour moi, il y a un problème complet sur le réseau aujourd'hui qui est pas regardé. Nous, on vous a mis les liens sur ces sujets-là, je pense que c'est intéressant. Et je pense que c'est un sujet qui, à mon avis, a le sens d'être écouté. Vous hostez tout chez DigitalOcean, si ma mémoire est bonne ?
Alors, non, pas vraiment. En fait, il faut savoir que Crisp, on est un système de chat qui est utilisé par à peu près 300 000 entreprises dans le monde. Et donc, en fait, du fait qu'on ajoute le chat sur des sites internet, il faut savoir qu'on a un trafic mensuel à peu près 200 terrains. Et à peu près 200 millions de personnes tous les mois qui passent sur notre plateforme, ce qui est considérable. Et donc, en fait, si on envoyait tout ce trafic vers un Presta Cloud, mais enfin, peu importe lequel, hein, que ce soit un DigitalOcean, un OVH ou un Clever Cloud, en fait, on enverrait tout notre trafic à un seul endroit sur un seul DC. Ça ralentirait énormément le trafic, nos serveurs prendraient cher. Et de plus, si on était chez un Presta comme Amazon Web Service, on se ferait exploser sur le tarif de bande passante. Et donc, en fait, nous, on envoie le maximum de trafic chez Cloudflare. Et ce qui fait qu'on arrive à peu près à réduire de 80% la bande passante. Et donc, en fait, quand vous essayez de charger le chat Crisp sur un site internet, en fait, par exemple, si vous êtes présent aux États-Unis, plutôt que le flux aille jusqu'en Europe, en fait, ça va directement arriver sur un serveur à New York, à San Francisco, etc. Et ça va considérablement accélérer les temps de chargement. Et surtout, nous, ça va réduire notre bande passante. Et donc, on passe énormément nos flux chez Cloudflare. Et c'est une boîte que je respecte, hein, que j'ai connue à son tout début. C'est une boîte qui s'adapte aux tarifs de n'importe quelle boîte. Et surtout, ça marche de manière miraculeuse, sauf quand ils ont des downtime d'une ou deux heures.
Ils ont déconné une ou deux fois cette année.
Mais ça nous a protégés de quelques saloperies de DDoS au passage.
Bah, sachant que le DDoS, au bout d'un moment, c'est qui est la plus grosse, donc il faut avoir des gros tuyaux. Et en fait, à un moment, le DDoS, c'est la taille de tes tuyaux. Et aujourd'hui, Cloudflare a clairement les plus gros tuyaux.
Nous, la DDoS maximale qu'on ait eue chez nous, c'est ça va être 40 gigasecondes. Ça reste pas mal. Ouais. Et en vrai, il ne s'est rien passé. Quoi.
Ouais, parce qu'ils les absorbent à la source, en fait.
Tout à fait.
Mais ils ont surtout des
systèmes pour parer ça, en fait, pour valider les requêtes.
Ouais, mais c'est surtout qu'ils ont énormément de bandes passantes.
Et puis, la détection de patterns, donc énormément de bandes passantes, ils sont connectés à la source niveau DNS, donc en fait, ils peuvent déconnecter.
C'est comme ils spawnent la plupart des DDoS du monde. En fait, comme c'est toujours les mêmes réseaux de bots qui t'attaquent,
t'as des blacklists.
T'as des blacklists, mais, facile à activer. Quoi.
Et j'ai travaillé pour contourner leur protection anti-bot, parce qu'en fait, chez CRISP, accessoirement, on fait du crawling pour importer la data de nos clients.
Accessoirement.
Donc, typiquement, vous avez ce qu'on appelle une base de connaissances, donc une foire aux questions qui est hébergée chez un autre prestataire que CRISP. Bon, en fait, vous mettez le lien de votre foire aux questions sur CRISP et nous, on va aller crawler ça et tout importer. Évidemment, nos concurrents sont. Enfin, ils ont senti la manœuvre et donc ils ont acheté notamment des solutions anti-bot chez Cloudflare. Et en fait, la protection anti-bot fonctionne miraculeusement bien.
Ouais, mais ça, par exemple, tu vois, c'est une question que je trouve hyper intéressante. Tes concurrents ont senti la manœuvre. Mais en fait, à un moment, c'est la donnée de tes clients. Enfin, la donnée de tes clients.
Oui, mais il n'y a pas de convention de Genève là-dessus. Enfin, c'est ouais, business is business.
Mais hein. Tu vois, c'est ton client qui dit moi, j'ai envie de me faire absorber ma fac. Pour finir, c'est du open web. Alors, ok, c'est pas une API, c'est du HTML. Et oui. Voilà. Après, enfin, il y a rien qui dit que l'HTML ne peut pas être considéré comme une API. Hein. J'ai moi-même, dans ma jeunesse, fait des applications mobiles qui tapaient sur des WordPress et qui globalement chargeaient tout dans un jQuery et allaient chercher des data qui m'allaient bien parce qu'il n'y avait pas d'API. Tu vois. C'était pas très agréable.
En fait,
mais tu vois, ce genre de truc, enfin, pour moi, c'est légitime. Mais tu vois. Et là, en fait, par exemple, les mecs te bloquent.
Non, mais au-delà de la considération éthique, le fonctionnement technique du système anti-bot est incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais sur mon réseau tout à fait privé de chez moi et essayais de faire un crawling. Donc là, c'était en l'occurrence du node. Mais en fait, j'ai mis le bon user agent. J'ai mis exactement au pouillem de cul tout ce qu'un Chrome normal enverrait. Et en fait, ils arrivent quand même à bloquer. Et en fait,
sur quoi ?
C'est notamment, ils peuvent sur les uncheck TCP, tu vois, sur de la crypto, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, ils vont détecter comme ça les patterns et bloquer les crawlers. Et c'est juste, ils sont arrivés à un niveau d'intelligence sur ça qui est incroyable. En tout cas, ça protège extrêmement bien.
Du coup, tant qu'on parle de flux, j'ai vu que tu avais mis un lien sur le travail sur Netflix avec l'Open Connect.
Ouais.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Netflix Open Connect ?
Oui, alors concrètement, beaucoup de gens croient que mater de la 4K sur Netflix, ça va tuer des bébés pingouins, que ça va émettre des gigatonnes de CO2.
Ouais.
La réponse est... Bah, c'est faux, en fait. Concrètement, quand vous regardez une vidéo en streaming, ce qui va consommer, c'est votre laptop, c'est votre télé, votre téléphone. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le réseau ni le serveur. C'est le device du consommateur final qui consomme. Pour une raison simple, c'est...
Sachant que la conso du device du consommateur final sur le cycle de vie du device
c'est un débat.
C'est la production du device... qu'il a coûté du CO2, mais après plus vous vous en servez, plus en fait la charge est minimale, surtout en France où notre électricité est décarbonée.
Mais fondamentalement, ça n'est pas le réseau qui consomme. Pour autant, on vous a parlé juste avant des systèmes de peering. Le vrai problème, c'est que si vous regardez une vidéo chez Netflix, par exemple, le problème, c'est que votre fournisseur d'accès Internet, Orange, Bouygues, SFR, etc., ils vont avoir à payer la bande passante pour mater la vidéo chez Netflix. Et donc, il y a plusieurs problèmes. C'est déjà, ça va saturer les liens transatlantiques. Parce qu'en fait, si vous regardez une vidéo...
Netflix va certainement aussi payer un opérateur pour que Orange puisse venir jusque chez eux.
Exactement. Et donc, en fait, on arrive dans des situations absurdes où, en fait, vous êtes obligé de... Enfin, la data, elle est obligée de transiter sur un câble transatlantique pour revenir en France, etc. Et donc, Netflix a trouvé la parade avec un système qui s'appelle Open Connect. L'idée d'Open Connect, c'est que Netflix va proposer un système de box, on va appeler ça des box, pour les opérateurs.
C'est une espèce de grosse boîte à pizza, c'est quoi, c'est des boîtes à pizza
4 oui, c'est concrètement, c'est des racks de qui sont entre 1 à 4 U. Et en fait, Netflix, gratuitement, va proposer, et propose déjà depuis 2016 ou 2015, aux opérateurs de racker des box Netflix dans leur data center. Et donc, l'idée, c'est qu'on est, si on est sur des grosses boîtes à pizza avec des capacités totalement pharaoniques. Hein, on parle sur un serveur de 2U d'une capacité de 100 gigasecondes. Ce qui est considérable. Et donc, grosso modo, un opérateur comme Orange a besoin de 4 à 5 serveurs comme ça pour faire tourner tout le parc d'abonnés Orange sur du Netflix. Et donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre également l'efficience énergétique du truc. C'est-à-dire, en fait, on parle de
si vous
4 serveurs qui font 200 watts.
Les box se sourcent les datas des séries en peer-to-peer. Et comme à la différence de YouTube, Netflix, en fait, pour finir, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Enfin, du sens où ce n'est pas du user-generated contenu.
On est sur un catalogue de quoi 20 000 films, peut-être plus.
Ouais, puis en fait, les films qui sont regardés, il n'y a pas tant que ça. En fait, vous avez une profondeur de catalogue. Mais en fait, les films qui sont regardés à un instant T, c'est pas beaucoup. En fait, c'est quelques terras. En fait,
ouais,
c'est
assez ridicule. Netflix est totalement diamétralement opposé en termes d'architecture à YouTube. C'est-à-dire, vous êtes sur Netflix, on a peu de vidéos regardées par beaucoup de personnes, alors que sur YouTube, on est totalement à l'inverse. On est sur beaucoup de vidéos, énormément de vidéos regardées par une quantité moyenne.
Ceci dit, les vidéos regardées sur YouTube sont répliquées localement, etc. Mais c'est pas du tout la même archi. Enfin, c'est pas
et donc, en fait, l'idée de ces serveurs Netflix. Open Connect, c'est de pouvoir répliquer localement dans chaque pays, chez chaque fournisseur d'accès Internet, le catalogue Netflix. Et donc, en fait, quand vous regardez une vidéo Netflix et que vous êtes client Bouygues, et ben en fait, on va taper directement sur les serveurs Netflix chez Bouygues. Fin d'histoire.
Oui, vous êtes quasiment dans un LAN, en fait, si vous voulez. Et c'est pour ça que Netflix réagit assez vite. C'est qu'en fait, vous êtes quasiment en LAN avec les vidéos.
C'est extrêmement intelligent puisque ça réduit les coûts. Pour tout le monde, c'est beaucoup plus efficace pour le client final en termes de rapidité de chargement.
Ouais, puis pour les lancements de séries mondiaux comme les derniers Stranger Things, The Witcher et compagnie, et si... quand tu as une audience de masse qui vient se pointer à leur pile sur l'épisode, ouais. Au moins tu restes en local.
Et puis, si on veut aller par là, c'est extrêmement efficient énergétiquement parlant parce qu'on parle de quelques serveurs qui ont la consommation, qui ont une consommation plus faible qu'un grille-pain. Enfin,
ouais, puis là en plus c'est du FreeBSD hyper opti. Enfin, vous regarderez les slides, c'est du FreeBSD hyper optimisé ce qu'ils font. C'est vraiment la bonne approche.
Concrètement, ça permet à un opérateur comme Orange d'avoir une consommation en termes de pour leur parc de serveurs Netflix qui est équivalent à un radiateur chez vous quoi, en plein hiver. Ouais, c'est pour vous expliquer, en tout cas, qu'à la fin, bah, en fait, c'est votre laptop qui consomme et c'est pas le serveur final chez Netflix qui va consommer.
Ouais, mais le laptop,
puisque le truc tourne sous un FreeBSD ultra optimisé et répliqué dans le monde entier, c'est extrêmement efficace.
Moi, je pense que ce qui est important à regarder dans cette notion de Netflix Open Connect, c'est qu'il y a une valeur qui a été mise en valeur par certaines des personnes qui veulent absolument nous parler de numérique responsable, qui est le CO2. Par byte transféré dans le réseau, qui est une valeur qui n'a aucun sens technique, parce qu'en fait, en fonction du byte que vous allez déplacer, c'est pas du tout la même capacité de calcul, notamment si vous faites de la reconnaissance d'image vidéo live, en fait, vous transférez pas tant de ça de bytes, puisque ça vous répond juste c'est un chat, mais pour faire ça, vous avez fait tourner un GPU, et donc en fait, ça a coûté cher en élec, bande d'essai, et en même temps, c'est un truc où à chaque fois ils vont rajouter les abacs de construction des serveurs et des DC qui sont certes extrêmement coûteux à construire, mais en fait après si on ne s'en sert pas, bah en fait ils ont coûté le même prix. Donc si vous voulez, vous avez un fort prix d'acquisition. Pour être plus précis, c'est imaginez que vous essayiez de calculer le prix de votre canapé par minute où vous êtes assis dessus, en fait. En fait, le canapé, il vous aura toujours coûté le même prix chez Ikea, en fait. Et moins vous vous asseyez dessus, plus il a coûté cher à la minute. C'est, du coup, c'est complètement con, en fait, si vous voulez. C'est, plus vous serez assis dessus, moins il aura coûté cher à la minute.
Mais en fait,
et donc, ce n'est pas la bonne façon de calculer l'impact énergétique.
Du coup, par bit, ça a été une règle empirique qu'ils ont été trouvée. Il me semble que c'est le Shift Project, c'est ça?
Ouais, puis en plus, leurs chiffres, ils veulent rien dire.
En tout cas,
là, ils commencent à retourner vers des chiffres qui sont bien.
C'est une règle empirique qui a été trouvée. Et en fait, puisqu'ils n'arrivaient pas à considérer le coût carbone sur l'informatique, ils se sont dit, bon, en fait, on va faire un coût par bit. Le problème, c'est que tout le monde a pris ça pour argent comptant et s'est dit, mais en fait, c'est la bande passante qui consomme, du coup, il faut réduire la bande passante pour consommer moins. Mais non, ça n'est pas comme ça que ça marche.
Voire même, des fois, il vaudra mieux augmenter la consommation de bande passante pour éviter de refaire des calculs. Ce sera probablement plus intelligent. Voire déporter un certain nombre
de... Et fondamentalement, ce n'est pas la bande passante qui consomme. Enfin, si on prend l'origine du réseau, enfin, c'est Samuel Morse. Le Morse, en fait, on a un simple câble en cuivre, on tape et de l'autre côté, on va répliquer le bip. Mais que je tape lentement ou rapidement, en fait, la consommation est rigoureusement la même. On parle d'impulsion électrique.
Enfin, le réseau coûte que dalle en termes d'énergie lui-même.
Qu'on envoie les impulsions plus ou moins rapidement, la conso, c'est la même, en fait.
Non, mais en fait, le truc, c'est que le problème de calcul comme ça, c'est qu'ils atterrissent à des résultats débiles, parce qu'en fait, les calculs qui sont faits du coût CO2 par mégabit, moi, j'avais eu une étude où, en fait, donc la personne calculait le coût d'instruction du réseau, c'était entre Paris et Montpellier, machin, et ensuite faisait passer du giga dedans, et en fait, disait, bah, du coup, on fait passer tant de gigas dedans, il coûte tant en électricité à maintenir, il a coûté tant en construction des matos, sachant que déjà, les abacs de construction de matos sont des sujets très compliqués, parce que, genre, c'est des abstractions, d'abstractions, 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 avec des approximations au milieu, etc. Donc déjà, ta marge d'erreur, elle frôle les 70 000%, ce qui commence à plus être une marge d'erreur, mais littéralement, j'ai envoyé des fléchettes en plein vent, tu vois. Et en fait, une fois ça, tu prenais son étude, et tu disais, bah, imaginons que dans ton infra-réseau qui est capable de le supporter, tu fasses passer 3 fois plus de réseau. En fait, ton coût CO2 de ton infra-réseau vient de se diviser par 3. Et donc après, toutes les études qui étaient calculées sur cette étude-là, bah en fait, tu prenais le coût CO2 des études, tu divisais par 3, là par réseau, ça changeait complètement. Et du coup, je me suis retrouvé avec qu'il y avait une étude, elle était écrite, elle était à se taper le cul par terre, avec des gens qui t'expliquaient que juste la VOD de Canal+, c'était 5% de l'électricité de la France. Un pays où, en France, on se chauffe à l'électricité, donc ça représente un bon 35% de l'électricité de la France, où là, pour le coup, on le sait, on a des abacs clairs sur le sujet, et où on fait tourner les TGV avec les LEC, on fait tourner tas de trucs. Enfin, c'est pas vrai. Canal+, VOD ne fait pas 5% d'électricité de la France.
Il y a de réels problèmes de calcul, et c'est souvent lié à... c'est des grands groupes du CAC 40 qui payent des boîtes de consulting qui, fondamentalement, ne comprennent pas ces sujets-là. Par exemple, La Poste a fait une étude, il me semble, c'est l'année dernière. Et en fait, La Poste a un problème, c'est qu'ils envoient de moins en moins de courriers. Et donc, plutôt que de passer en force au numérique, ils se sont dit, il faut qu'on conserve cette part de courrier. Il faut savoir que La Poste, aujourd'hui, beaucoup de courriers envoyés, c'est du publipostage. Et donc, ils ont essayé de convaincre les annonceurs que c'était plus efficient d'envoyer du publipostage par La Poste que plutôt que d'envoyer une bête newsletter. Et donc, en fait, on arrivait à un calcul qui était complètement délirant. Et en fait, la procédure était, considérons une newsletter qui fait, 1 méga. Cette newsletter contient un lien. L'utilisateur clique sur le lien et arrive sur un site internet de 40 gigas.
Ouais, un gros site, alors. Donc, il télécharge tout le site.
Un site internet de 40 gigas. Ça n'a aucun sens.
Ouais, si le mec a regardé 2 saisons de Stranger Things.
Hein. Oui, non, mais même pas.
Chargé en cash, tu vois, dans la page. Quoi.
Faut que je retrouve l'étude, mais elle est marrante. C'est extrêmement rigolo de considérer un site internet de 40 gigas. Ça n'a pas de sens.
Et après, tu prends un coût par byte calculé par le Shift Project qui est tout en haut, quoi, et tu te retrouves avec une catastrophe écologique. mais ça n'est que du papier. Et en fait, c'est pour ça que parfois, moi c'est un truc que je répète souvent aux gens, et parfois il faut accepter l'incapacité à réduire un sujet. Je m'explique. Il y a, en science, un truc qu'on appelle le réductionnisme, qui est Descartes, qui est le moment où on dit chaque problème peut se découper en problèmes plus petits qui vont tous nous ramener une solution. Ça s'appelle le réductionnisme. Et en fait, ça, c'est pas très vrai. C'est pas très vrai parce qu'on arrive à des moments où on tombe face à l'innocuité de ce genre de raisonnement, ouais, quand on fait du computer vision.
Mais en tout cas, je pense que c'est... Alors, évidemment, il faut que les développeurs optimisent leurs applications, mais ne serait-ce que pour un sens, pour l'utilisateur, ça n'est pas normal aujourd'hui qu'un Chrome soit une plaie en CPU. Quoi. Ce navigateur est une catastrophe. Et je pense qu'on ferait plus pour l'environnement si chez Google, enfin, ils se tâtaient à optimiser cette grosse merde.
Tu parles de navigateur, mais je crois que Chrome en tant qu'OS, il n'est pas si lourd que ça, hein, si on considère en tant qu'OS.
Oui, mais de Google. Ce truc, j'ai un MacBook surpuissant. En fait, j'ai l'impression que depuis Chrome qui était, on va dire 2010, la création de Chrome, entre 2008 et 2010.
Ouais.
S'est alourdi de manière considérable, et aujourd'hui c'est le navigateur majoritaire.
Utiliser Firefox, en plus c'est l'open web Firefox.
Et il y a du Rust dedans.
Et en tout cas, je pense qu'on aura plus d'impact si on essaie d'optimiser la conso du device final, que ce soit l'écran.
Ou la conso des serveurs. Aujourd'hui, nous, chez Clever, on recompile tout ce qu'on fait pour les optimiser pour le hardware qu'on utilise. En faisant ça, on économise près de 30% des cycles CPU, ce qui nous permet tout simplement de tasser plus de machines virtuelles sur les mêmes bécanes, etc. Ce qui fait qu'on a moins de bécanes dans le parc. Puis après, on a l'auto-scalabilité de Clever automatique qui nous permet de scaler et de rationaliser, effectivement. Là, nous, en fait, on compresse les infras. Et donc, on n'achète pas des serveurs. Et c'est en ne produisant pas des serveurs qu'en fait, on fait des vraies économies de CO2. Et donc, ce que nous, on dit, c'est qu'en informatique, si on veut calculer des économies de CO2, il va falloir aller un peu plus loin
que
de mesurer la bande passante, ce qui est une mauvaise métrique, en fait.
Oui, le problème n'est pas le problème. Enfin, le problème n'est pas la réduction carbone. Et c'est bien de réduire l'impact carbone de l'informatique. C'est juste que c'est la mauvaise manière de se pencher sur le problème. Mais par exemple, moi, je connais plein de start-up. Ils ont des serveurs d'une taille démoniaque. Et en fait, juste les mecs, ils n'utilisent pas les index.
Oui, c'est très courant.
Mais c'est hyper courant, en fait. Genre, les serveurs ne sont pas indexés. Et donc, du coup, on scale. Et en fait, on arrive à des consommations délirantes.
Alors, shameless plug là-dessus. Chez Clever, on va bientôt sortir des services d'indexation automatique pour vos bases de données.
Truc vous dira quel index créer dans la base de données
pour
accélérer votre base de données en fonction des requêtes, des profils de requêtes que vous faites.
Et rien que ça, on va pas braguer sur le coût écologique, sur l'avantage
écologique. Et ce serait compliqué de le calculer.
Oui, mais ça va dans le bon sens.
On pourrait braguer parce qu'en fait, quand je vois une bande de nuls qui brague sur leur truc écologique, alors que factuellement, ils font des choses contre-productives, des fois, je me dis qu'on devrait faire du shameless plug vert parce que, en fait, le truc, c'est que... Alors, je vais faire un truc qui va faire bondir tous les verts qui pourraient nous écouter. On fait de l'écologie de production, c'est-à-dire qu'on fait des économies, nous, de serveurs qui nous font faire des économies financières, font faire des économies financières à nos clients et qui, en fait, font une réduction de traitement. Et en fait, c'est en ayant des choses comme ça d'impact global. Et en fait, quand nous, on va optimiser quelques dizaines de milliers de bases de données, là, en fait, on va pouvoir désengranger des serveurs et là, on fait des trucs qui ont de l'impact. Et pour ça, en fait, on va consommer en faisant.
Et je pense qu'aussi beaucoup de gens surestiment l'impact consommation serveur. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir ça, c'est que beaucoup d'articles dans la presse française écrivent réduisez vos envois de mail. Et en fait, on se rend compte que si on suit les calculs, 30 ou 40% d'Internet sert à envoyer des putains de mails, en fait.
Et la part des mails qui
sont rien. C'est rien. Et donc beaucoup de gens surestiment totalement la consommation serveur. Enfin, nous, par exemple, chez Crisp, on a à peu près 200 millions de personnes qui passent sur nos services tous les mois. Franchement, si on regarde la somme de tout ce qu'on consomme en serveur en termes de conso kilowatt, grand max, avec la climatisation, tout ça, on est à 1 kilowatt, tu vois. C'est franchement, c'est votre votre radiateur de salle de bain.
Tout ça.
C'est votre radiateur de salle de bain pour 200 millions de personnes. C'est rien.
C'est pas nécessairement hyper intéressant comme sujet, mais en fait, enfin, je pense que enfin, on va pas nécessairement refaire le débat de comment on le fait aujourd'hui, mais je pense que c'est un des sujets sur lequel on vous poussera à avoir un esprit critique. On va énormément entendre parler parce qu'il y a des catastrophes actuelles et qui sont réelles qu'il faut traiter. On va énormément en entendre parler dans les temps à venir et je pense que je vous invite à avoir un esprit extrêmement critique sur la façon dont ça se passe parce que c'est un sujet qui est compliqué aujourd'hui à traiter et il faut laisser les ingés un peu s'exprimer sur le dossier parce qu'en fait c'est un vrai sujet d'ingénieur de réduire les consos. Peut-être sujet suivant parce qu'on avance quand même dans l'heure. Si vous avez suivi, on a une petite guerre en cours entre les gens d'Amazon qui ont sorti OpenSearch et Elastic. Donc je rappelle, Amazon a spoilé la marque Elasticsearch. Elasticsearch est mis en colère. Amazon a décidé de faire une version amazonée d'Elasticsearch qu'ils ont plus ou moins mis open source, qu'ils appellent OpenSearch, avec c'est une attaque en règle contre Elasticsearch qui a déployé Elastic à la base. On en a déjà parlé et on essaiera de vous retrouver les liens des différents podcasts dans lesquels on en parle. Mais là, la guerre prend un tournant un peu plus énervé. Une petite pull request qui arrive dans le client officiel d'Elastic pour Python qui check qu'il est bien en train de parler à un Elasticsearch et pas un Elasticsearch compatible avant d'établir la connexion.
D'accord, ils ont littéralement sorti les armes en fait.
C'est ça. En disant, nous, on check qu'on parle bien à un Elasticsearch et que c'est pas autre chose en fait à qui on est en train de parler pour faire ça. Et donc.
Qui a été mergé.
Ouais, bien sûr, ça a été mergé. Bah, c'est le client officiel d'Elastic avec Elastic qui intègre cette mise à jour en disant, bah, le client officiel d'Elasticsearch, il est capable de se connecter à un Elasticsearch. Un Elasticsearch qui peut être un Elasticsearch open, qui peut être premium, whatever, mais un Elasticsearch, trademarké Elasticsearch, dans la fondation Elasticsearch, enfin, dans la fondation, dans l'architecture Elasticsearch, et donc on ne prendra pas en charge les protocoles des autres « je veux me présenter comme compatible Elastic ». Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors déjà, ce à quoi visiblement la réponse d'Open Source, donc d'Amazon, c'est utiliser une version antérieure à la merge request.
Non, mais là ils ont dit qu'ils allaient forquer tous les clients en fait.
Bon, moi franchement, mon avis sur la question, c'est ça cause aussi un problème sur la contribution d'Amazon à l'open source.
Ils font littéralement l'inverse. Ils split en fait.
Bah, eux, ce qu'ils veulent, Amazon, c'est vous enfermer chez eux. Et donc, on n'utilise pas MySQL, on utilise Amazon quoi déjà
Aurora. C'est pas Aurora qui s'appelle
Non, il n'y a pas RDS.
Ah, il y a RDS et Aurora.
Puis il y a DocumentDB aussi.
En tout cas, en fait, ils prennent un tas de trucs open source qui forquent et qui rendent proprio. Les gens utilisent ça ensuite et après, en fait, les gens ne peuvent plus en sortir. Et au-delà, on frôle le vol de propriété intellectuelle ou même de propriété collective, si on considère que l'open source est une propriété collective. Et c'est juste mauvais pour le monde open source, ce que fait Amazon. Ils ne contribuent pas.
Absolument pas.
Et même, on a souvent gueulé sur Microsoft... une époque parce que Microsoft était dans cette vision de vendre un OS fermé,
tout ça.
Mais comme Microsoft, aujourd'hui, enfin se lance massivement dans l'open source et contribue au projet. Et Amazon, pas de job.
Ouais, puis au global, l'open source a globalement gagné, enfin, en tout cas sur les parties développeurs, a gagné le marché. Chose qui est très amusante, parce que du coup, Baptiste et moi, on passe notre temps à parler avec des gens du milieu médical, de l'open source médical, et en fait, c'est génial parce qu'en face de nous, on a des gens qui nous disent comment des gens pourraient faire du maintien de choses meilleures que les industriels qui sont nécessairement meilleurs que vous, comment le support pourrait être acceptable dans le temps
de produit, etc.
En fait, on a les arguments des années 90 contre l'open source, mais en 2020, donc c'est assez amusant pour nous.
Et
donc,
nous, là, on le sait dans nos métiers que l'open source c'est bien parce que ça évite tout simplement de réinventer la roue, on avance plus vite comme ça.
Ou alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent mais jamais une bande de hippies comme vous pourront vaincre les industriels de notre secteur qui s'appellent XY. Tu sais, nous on est là face à eux, on leur dit, vous savez, nous,
IBM, ils se sont bien fait matraquer. Hein, quand même.
On a bouffé Microsoft et IBM, ça va, on va très bien s'en sortir. En fait, on connaît déjà la fin de la guerre, ça va prendre 10 ans, mais à la fin de la guerre, l'open source va triompher. En fait, c'est ça qui va se passer. Celui-là, ton industriel dont tu me dis qu'il est surpuissant, j'en connais même pas le nom, il n'est pas classé au Fortune 500 américain, donc en fait, il ne m'intéresse pas tellement. Et en fait, c'est assez amusant parce qu'on a les mêmes arguments. Donc aujourd'hui, oui, ils sont tous devenus des supports, sauf Amazon, qui est aujourd'hui dans une attaque délibérée de la communauté open source. Moi, je comprends la position d'Elastic aujourd'hui, qui est de dire, bah, nous, on ne va quand même pas se taper le maintien des produits compatibles d'Elastic, mais
différent.
On ne sait pas le faire le maintien.
Différent, c'est ce
et
que vous
avez Amazon qui répond en disant, vous êtes anti-open source. Enfin non, parce que la licence du truc est toujours... C'est quoi? C'est une licence MIT? C'est quoi le...
Elasticsearch?
Le client. Le client, c'est quoi? En fait,
c'était
ils peuvent continuer à forquer. Mais l'Elastic Pie, là, la licence du bidule, c'est quoi?
Licence, alors, Apache. En tout cas, le client Python, je suis sûr de l'Apache.
Moi, hein. Ouais, sur du Apache, les mecs peuvent forquer et faire un maintien du fork pour maintenir la compatibilité avec leurs produits. Moi, je comprends. Moi, je pense que les gens d'Elastic ont besoin de continuer à évoluer sur leurs produits sans devoir se soucier du reste des trucs qui se prétendraient Elastic. Sinon, ils ne vont jamais s'en sortir.
Ouais, et le problème, si tu veux, pour une boîte comme Elastic, c'est que ils vont avoir derrière des gens qui vont créer des issues parce que le client Amazon est pété, parce que la connexion sur l'instance est pété, et que c'est pas de leur fait, en fait.
Ouais, puis ça va être une pression en plus sur Elastic, c'est clair.
Mais ce qui est drôle, c'est que Amazon tourne encore le truc comme étant Elastic veut détruire l'open source, machin. Enfin bref,
moi c'est. Mais c'est eux, hein, pour le coup. Hein. Enfin, c'est Amazon qui ne contribue pas, pour moi, à l'open source.
Est-ce qu'on a encore des points sur ce sujet-là, ou on se dit qu'on passe à la suite?
On peut passer à la suite.
Eh ben, nous avons les gens de chez Apple qui sont en train de réaliser un nouveau client pour tester ce qu'on appelle le CSAM. Ouais. Et là, je pense qu'il est important que tu nous expliques ce qu'est l'histoire.
En fait, pendant longtemps, en fait, Apple a souvent résisté face au FBI et à d'autres organisations sur le fait de déverrouiller des iPhones pour des enquêtes, etc. Et ils étaient plutôt reconnus pour ça. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a un peu changé la donne. Apple a annoncé, alors ils n'ont pas vraiment annoncé, mais c'est plutôt Matthew Green, qui est un chercheur à l'université, qui avait annoncé le truc un peu en avance. Apple met en place un système basé sur du machine learning pour détecter en fait des images à contenu pédosexuel. Donc ce qu'on appelle le CSAM, c'est le Child Sexual Machine Detection, qui va en fait scanner automatiquement toutes tes images qui sont dans ton compte iCloud pour voir si ça répond en fait, si tes images sont pas proches ou pas d'une image déjà connue par une autorité qui est une NGO américaine qui recense toutes ces images. Donc globalement, ils ont entraîné un modèle. Le modèle, il est sur ta machine, il est sur ton ordinateur, ou sur ton iPhone. Et à chaque fois que tu vas partager une image, on va voir s'il y a un risque, s'il y a un risque que c'est une image sensible ou pas. Et si elle est sensible, ton téléphone va générer un voucher de unlock et va transmettre à Apple.com l'image incriminée qui va voir si effectivement, toujours d'un point de vue automatisé, il y a un trigger à faire ou pas. Si le trigger est dépassé, à ce moment-là, il y a une review manuelle qui est faite par un employé d'Apple qui va utiliser le voucher de déchiffrement pour observer l'image et voir si effectivement elle est raccord avec ce qu'ils avaient et ainsi transférer ça aux autorités fédérales. Et il y a un deuxième système qui est là, qui n'est pas uniquement dans iCloud, mais uniquement dans iMessage, c'est détecter des images à contenu sexuel sur les téléphones qui sont reconnus comme étant des téléphones, configurés comme étant des téléphones pour enfants. Donc en fait, si vous avez des gamins et que vous leur avez configuré un iPhone, et que votre gamin il reçoit ou il envoie une image un peu chaude, en fait, l'image va être automatiquement floutée. Le gamin va être prévenu que ça sent cramé au niveau de l'image. Est-ce qu'il est d'accord pour l'avoir ou l'envoyer? Et si le gamin est d'accord, ça envoie une notif aux parents. Donc il y a deux niveaux là-dessus, où Apple est accusé par les researchers d'avoir accepté en fait une forme de backdoor, certes qui est fait en local, mais si aujourd'hui tu as un système qui permet de valider un contenu ou pas, à caractère pédosexuel, tu vois, bah, la marche pour aller vers d'autres typologies de censure, elle n'est pas très haute en fait.
Ah, mais est-ce qu'ils n'essaient pas de trouver une solution la plus acceptable à une problématique juridique qui leur est posée par un législateur?
Si.
Et législateur européen notamment.
Ouais. Tout le monde. Ils ont tout le monde sur le dos, ils ont la Chine, ils ont les États-Unis, ils ont le FBI, ils ont un paquet de gens là-dessus, et essayer de trouver en fait un entre-deux entre on fait comme Google et WhatsApp, on essaie de lire les messages quoi qu'il arrive, et on essaye de rien divulguer. C'est compliqué. Donc, ils essayent en fait de trouver un truc.
Là, ils le font client-side. Hein.
Alors là, ils le font client-side au niveau de l'authentification des images avec le hash.
J'ai l'impression que c'est quand même l'équipe en fait, qui est la plus avancée en termes de machine learning client-side. Apple, justement, pour des systèmes
ouais,
de privacy.
Ils sont très forts à classer des photos de chats, des photos de voitures.
En fait, ils ont embauché un expert chez Google il y a 3-4 ans maintenant, peut-être même ouais. plus. On avait, j'ai rien vu chez Apple. Donc, Siri était toujours aussi débile, etc. Et depuis 2 ans, là, on commence à voir des trucs qui sont utilisés par les gens du machine learning.
Bah, par exemple, la détection de visage qui est extrêmement performante, la détection d'objets. Hein. Par exemple, moi, je suis très fan de voitures. Il sait distinguer voiture de sport de voiture.
C'est pas
mal. Ce qui est énorme.
C'est quand il y a des bandes blanches sur une voiture de sport.
Alors, comment il fait, je ne sais pas, mais c'est très très fort. En tout cas, je pense que la réponse d'Apple sur ce problème de photos de zizi d'enfants, c'est qu'est-ce qui est... Déjà, il y a deux problèmes. C'est, en fait, je pense qu'on reproche à Apple de ne pas résister aux législateurs. C'est avant tout ça.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que là, aujourd'hui, alors, il me semble que j'ai mis un article sur ça, mais en tout cas, aujourd'hui, l'Union européenne est en train de passer une loi pour obliger, en tout cas, les fournisseurs de messaging analyser le contenu. Donc en fait, quoi qu'il arrive, les législateurs, que ce soit américains ou européens, vont forcer de toute façon Apple à le faire.
Ouais, donc autant essayer de le faire client-side.
Ouais.
Après, je pense que c'est un...
Moi, je pense après que c'est une mauvaise idée de la part du législateur de le faire. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas fondamentalement compris le problème. C'est que ça va, au final, ouais. ça va empirer le problème. Puisque, enfin... les pédophiles sauront que de toute façon ils sont espionnés en WhatsApp, en utilisant un iMessage.
Ça va décaler le problème.
On va aller vers des solutions de toute façon plus chiffrées, hein, ils ne sont pas débiles. Et en fait, ça va être encore plus difficile finalement pour les services à traquer ces individus. Mais c'est pareil pour le terrorisme en fait. Hein. Au final, ouais. ça empire juste le problème. Et en fait, ça paraît compliqué à dire comme ça, mais en fait, vaut mieux rien faire aujourd'hui et laisser
les enquêtes.
Presque même le flou juridique sur le sujet.
Ah, tu veux dire les enquêtes, enfin le système de détection. Tu veux laisser un flou juridique sur.
Vaut mieux aujourd'hui rester dans la situation actuelle que de passer une loi qui va obliger, en tout cas, les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de messaging, à analyser le contenu, parce qu'en fait, les individus. Que ce soit des pédophiles ou des terroristes, en fait, ils vont se déplacer de ces jardins de messaging pour aller vers des trucs beaucoup plus hardcore. Enfin, en gros, du système sur Tor avec du chiffrage beaucoup plus puissant.
Ouais, mais est-ce que ce sera à la portée de tout le monde?
Oui.
Moi, je ne sais pas tellement comment faut gérer le dossier.
En tout cas,
je pense que c'est
sur le point de vue privacy, le problème, c'est... Enfin, il y a peut-être des parents qui regardent le podcast. Enfin, oui, il y a des parents. Enfin, si vous prenez, là, c'est les vacances, des photos de vos gosses en train de jouer nu autour du tourniquet à eau ou à la plage, prenez une photo de ça, vous la partagez à votre famille... Comment Google, Apple classifie ça?
En fait, le Child Abuse, le Child Sexual Abuse Material, CSAM, il est basé en fait sur une empreinte de photos déjà existantes récupérées depuis une NGO. Donc en fait, les réseaux pédophiles s'envoient des images existantes Et du coup, c'est une base de connaissances. Okay. Détection de photos, si elle était croppée ou si elle, au niveau de la couleur.
Ok, donc bien sûr, un simple pattern matching.
On fait un rapprochement. Et c'est sur les photos, enfin, c'est sur les appareils configurés des gamins que là, du coup, il y a un autre produit qui va détecter si c'est du contenu chaud ou pas. Mais gamin ou pas. Mais c'est, si effectivement l'iPhone il est flagué comme étant un iPhone de quelqu'un de moins de 15 ans, ou 13 ans, je sais plus, je crois que c'est 13 ans aux États-Unis. Ça lève des alertes uniquement à partir de ce moment-là.
Ça envoie aux parents.
Ouais. Là, pour le coup, ça prévient les parents.
Oui, mais en fait, ça n'empêche pas les gosses, les ados de faire autre chose en dehors de leur téléphone, en fait.
Non,
ça va juste
pas.
Déplacer le problème. Comme d'habitude, ils le sauront, en fait.
Ça va toujours déplacer le problème. Et en ouvrant cette porte-là, en fait, tu peux te dire l'usage, il peut être détourné par Apple à terme. Ils ont déjà un App Store qui est quand même bien, bien chelou en Chine, qui est bien firewallé, avec des restrictions au niveau des applications et puis une censure au niveau des contenus également qui est faite. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Apple pourrait pas céder aussi aux pressions de la Chine. Malgré tout, c'est un genre plus gros marché maintenant. Bon. En tout cas, je trouve
Google
ça malin.
Déjà cédé. Complètement aux pressions de la Chine dans l'espoir de débarquer dans ce marché-là.
Ouais, voilà.
Comme Microsoft a déjà filé toutes les clés aussi à la Chine.
C'est comme interdire l'anonymat sur Internet. Enfin, les gens, ils utilisent un VPN et le problème se déplace en fait. Donc, au final, ça devient encore plus difficile de traquer les gens qui n'utilisaient pas un VPN avant et qui insultaient des gens avec des messages à caractère raciste sur le net. Et après, les gens utilisent un VPN et en fait, on ne les retrouve plus jamais. Donc, c'est le même problème.
Surveillance de masse, toujours le sujet de...
Et en fait, le législateur qui ne comprend rien au sujet d'Internet, etc., enfin, il y a juste à regarder les moyennes d'âge et ils ne comprennent fondamentalement rien, le plus souvent, et part d'une bonne idée.
Je sais pas s'ils comprennent rien, non.
Mais ça part d'une bonne idée en disant...
Ils ont des mal à comprendre la tech, ils ont du mal à comprendre le marché. Moi, je sais que c'est des décideurs où quand... Moi, je suis souvent dans des niveaux de discussion avec ces gens-là, en fait. Et c'est des gens qui considèrent encore que Google, Facebook, Apple & Co., c'est des startups. Et quand ils te parlent des grosses boîtes, ils ont en tête Total, Danone, enfin, nos bonnes vieilles grosses boîtes françaises, quoi. Qui, en fait, sont des nains par rapport aux GAFAM, en fait. Et ils ont du mal à appréhender le fait que Google, c'est une boîte de 150 000 personnes et que c'est pas du tout des rigolos et qu'en fait ça fait longtemps que les gens sont plus dans l'expérimentation chez Google. Et je pense que ça c'est un des sujets les plus importants à leur faire comprendre, c'est qu'ils ont du mal à visualiser en fait où est-ce qu'on en est en fait sur ces boîtes-là et qu'Amazon a dépassé 1 million d'employés.
Ça pose d'autres problèmes. C'est par exemple là on a déjà l'UE qui a déjà fait une loi pour obliger les fournisseurs de contenu à analyser notamment les vidéos, les photos, etc. Le problème, c'est notamment pour les histoires des ayants droit.
Ouais, mais ça encore
problème,
une fois, c'est un truc
c'est que...
C'est censé défendre nos citoyens et l'économie européenne.
Mais en fait, ça bute l'économie, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Europe, des grosses boîtes comme Google et Facebook, on n'en a pas. Donc en fait, quand on oblige aux fournisseurs de contenu d'analyser les vidéos... Facebook est capable de le faire, Google est capable de le faire.
Notamment YouTube, qui est la plus belle machine à comprendre que bah, ça, c'est un bout de clip de Rihanna, ça, c'est une chanson de machin, etc. Et dans la monétisation, on va brasser tout et
on va aller obliger des petites startups européennes à faire exactement la même chose.
Mais ils n'en sont pas capables.
Ils n'en sont pas capables.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va, à force de lutte, et je sais, je viens de taper ça avec l'OIP, c'est déjà dans notre roadmap, à force de lutte, on va forcer ces plateformes-là à mettre cette technologie-là à disposition parce qu'elles sont en position dominante. Les seules et elles sont en position dominante. Et donc, les startups européennes vont se retrouver à payer Google pour avoir le droit de publier des vidéos après les avoir fait passer à la passe de la moulinette des ayants droit voulue par la loi européenne. Et donc, en fait, on va encore enrichir Google dans le dossier. Et en fait, c'est à chaque fois que le législateur essaye de faire des trucs pour protéger notre économie locale, en fait... Vu que tu as les 150 dus du lobbying de Google et de Facebook qui vont aider à écrire le texte qui sont là, en fait, les mecs vont légèrement détourner le truc et ça va devenir à leur avantage. Parce qu'on essaye de faire des lois qui respectent la concurrence libre et non faussée. Alors qu'il n'y a aucune concurrence libre et non faussée à respecter avec ces gens-là. Ils sont en abus de concurrence déloyale
tout le temps.
En permanence. Et la seule option, c'est de réussir à essayer de les contraindre juridiquement en disant il faut autoriser les autres boîtes à exister, en fait, à côté de vous. Et ça, en fait, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. La pandémie commence. On comprend tous du jour au lendemain que toutes les plateformes de vidéo call vont subir un boom contextuel. Et là, dans Gmail et Gcalendar, apparaît poussé, mais comme des bourrins, Google Meet. Tu crées le moindre événement dans ton calendrier, bam, tu as un lien Google Meet. Il y a un bouton Meet gros comme as au milieu de ton appli Gmail sur mobile. Enfin, Meet est placé par Google, mais comme un bourrin, genre d'un seul coup, et ça vous dit de parler de Meet ? Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, sur ce marché où ils n'étaient rien, Google récupère des parts de marché gratos sur leur base d'utilisateurs,
extrêmement rapide,
en abus de position dominante. Et les boîtes européennes qui auraient pu récupérer de la part de marché, ben, en fait, s'effondrent face à ça. C'est un abus de position dominante. Et est-ce que la loi condamnera Google ? Mais certainement. Tout comme la loi a condamné Google sur Google Shopping.
Mais dans combien de temps ?
Mais Google Shopping, l'OIP, c'est nous qui les avons attaqués sur Google Shopping. Donc, je peux en parler. Je suis coprésident du bordel. 12 ans pour faire condamner Google. Et donc, les boîtes de l'époque qui tenaient les comparateurs de shopping de l'époque se sont effondrées et sont mortes aujourd'hui. Et donc, en fait, on gagne contre Google et ils vont prendre une amende. Mais en fait, les boîtes européennes qui auraient pu gagner sont mortes. Et le pire, c'est que maintenant, la défense de Google sur Google Shopping, c'est quand même de dire « Ouais, mais en fait, vous dites qu'on a fait une position dominante, sauf qu'en fait, aujourd'hui, nous, on se fait massacrer par Amazon. » Et tu vois, genre, les mecs en ont tellement pris plein dans la tronche par Amazon, si tu veux, que maintenant, leur position, c'est de dire « Ouais, mais nous, faudrait quand même nous défendre contre Amazon. » Tu vois, genre, ben non, les gars, enfin... Vous avez buté tout le monde. Et en fait, c'est vous qui avez créé des situations de monopole. Et donc, il faudrait par ailleurs attaquer Amazon. Et en fait, tu as affaire à des boîtes qui sont énormes et qui passent leur temps à spoiler le droit de la concurrence
mais si on veut,
en toute impunité.
Mais le législateur européen a parfois des fausses bonnes idées. Je considère la GDPR comme étant quand même une bonne idée, parce que ça protège les citoyens vis-à-vis des données. Mais au final...
C'est l'application qu'on aimerait.
Le problème, c'est que les Google, les Facebook, etc. ont pu mettre une armée de gens en juridique. Tout ça pour au final vous dire que vous êtes responsable vous-même de vos données et qu'ils font la même chose qu'avant. Hein. Par exemple, quand on regarde le data processing de Google Analytics, ils ont inversé le rôle. Et en fait, ils disent que c'est vos données à vous. Vous êtes le data processor des données et ce n'est pas eux. C'est complètement ubuesque comme situation. C'est ce qu'ils ont fait. Et le problème, c'est que ces grandes boîtes, en tout cas, elles ont les ressources pour, quand il y a une loi comme ça qui passe, ça ne change rien pour eux. Par contre, toutes les autres boîtes européennes, parce que je rappelle que nous, dans le secteur européen, nous sommes totalement des nains dans le numérique, et ben en fait, on se tape la réglementation, l'application de la réglementation, et ça a été extrêmement compliqué. Là, récemment, il y a eu aussi la régulation sur le paiement bancaire.
Online. DSP2 ?
DSP2. Ouais. Ça a été l'enfer sur Terre, cette histoire.
Je sais que dans certaines boîtes, ce n'est pas encore fini. C'est encore en cours d'implém, alors que la deadline est passée depuis pratiquement un an.
Mais en fait, le truc, c'est que ça part à chaque fois de bons sentiments.
Ça part d'un bon sentiment.
Il faut arrêter de croire que la concurrence peut être libre et non faussée quand tu as des acteurs aussi gros sur le marché. En fait, il y a un moment, il faut favoriser juste les boîtes de ton secteur. Et il y a un truc aussi qu'il faudrait que les gens comprennent. C'est attendez pas que les politiques règlent le dossier. Vous voulez des boîtes du numérique fortes à côté de vos boîtes qui ne sont pas du numérique, mais qui ont besoin du numérique et qui un jour se feront bouffer. Parce que, enfin, faut pas croire, aujourd'hui, Amazon, ils attaquent pas que les boîtes du numérique. Hein. Ils attaquent les boîtes qui produisent des sacs. Hein. Vous avez l'exemple de cette boîte qui avait dépensé plein d'argent pour faire un sac designé nickel et ils avaient des très bonnes ventes sur Amazon. Amazon a copié leur sac et le vend 3 fois moins cher. Et en fait, enfin, je vous laisse, je vous retrouverai la vidéo.
Oui, ils attaquent tout le monde.
Ils attaquent tout le monde. Et en fait, quand je vois une assurance m'expliquer que jamais Amazon ne les attaquera sur leur business...
Mais évidemment que si. Amazon attaque Canal+, sur le foot. Genre, ils ont racheté les droits, tu vois. Genre, Amazon attaque Canal+.
Mais moi, je me revois il y a 3 ans...
Il y a 5 ans.
...expliquer aux gens de Canal, vous n'allez quand même pas donner de l'argent à Amazon, c'est vos concurrents. Et les mecs m'expliquaient, mais non, ils ne seront jamais concurrents. Aujourd'hui, Amazon souffle les droits du foot à Canal.
Ils font de la VOD.
Et les payent moins cher.
Ouais. Alors, Canal n'a même pas voulu dépenser la trésor pour aller chercher la Ligue 1. Et oui, évidemment que les mecs seront vos concurrents. Et si vous décidez pas de systématiquement mettre face aux géants américains des Européens dans la passe en disant peut-être qu'on pourrait utiliser des services européens, bah en fait, vous faites partir la valeur aux États-Unis et nous, on ne peut rien faire. Et donc, oui, au lieu d'utiliser du Intercom, allez regarder la solution de CRISP. Au lieu d'utiliser du Amazon Web Service, allez regarder du OVH. Vous savez, j'ai même pas fait de la pub pour Clément. Non, mais en fait, sincèrement,
c'est le point. Il y a toujours aussi le problème de ces gens qui veulent s'enfermer dans un truc. Ils ont un syndrome de Stockholm. Il y a eu l'histoire avec Microsoft, là, avec le cloud bleu, c'est ça?
Ouais, bleu.
Ouais, c'est marrant ce truc-là. Et après, on voyait des gens qui disaient « Mais c'est normal ce deal, puisque de toute façon, chez les prestataires français, on ne peut pas faire la même chose. » Mais évidemment que si.
Et attends, on peut vous expliquer aussi pourquoi chez les prestataires français, on ne peut pas faire la même chose. Ça, c'est un point qui est très important.
Non, mais évidemment…
CRISP, non, mais je donne du contexte aux gens.
Oui.
CRISP, vous avez une plateforme de chat. Donc, vous avez une jolie petite chatbox. Et vous pouvez chatter, mais si vous envoyez un DM sur Twitter, vous chattez avec CRISP. Si vous envoyez des Facebook Messenger à la page entreprise de votre boîte, c'est centralisé dans CRISP. Vous
pouvez, des mails, c'est centralisé dans CRISP.
Vous pouvez ou pas dans WhatsApp, parce que ça, c'est encore un sujet dont on pourrait parler WhatsApp. On y revient dans un instant, du Discord, du whatever. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu as beaucoup d'échanges d'API avec, disons, par exemple, Facebook?
Oui, bah en fait, abus de position dominant. En fait, nous, c'est comme l'histoire des sacs, des vendeurs de sacs chez Amazon. En fait, Facebook s'est rendu compte que le marché qu'on a est intéressant. Ils sont arrivés dedans en 2017. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on fait du messaging. Donc, on est obligé de se connecter aux plateformes de messaging. Chez Facebook, on a donc Messenger, on a WhatsApp, on a Instagram. Et donc, Facebook a commencé comme ça à limiter les accès. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas mes accès pour WhatsApp. Les accès que, alors, pour
Instagram. Pour faire court, WhatsApp, donc Facebook a décidé que WhatsApp, il ne mettait pas d'API public en œuvre, mais WhatsApp, il faut passer par un de leurs revendeurs,
c'est donc, encore globalement plus US que Twilio, que ça.
Un truc comme ça, qui lui discute avec Facebook pour savoir si vous avez le droit, et de toute façon, tous les messages que vous allez échanger sur WhatsApp, en tant que fournisseur, vous allez les raquer.
C'est encore plus US que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook a choisi une liste de boîtes triées sur le volet, dont Twilio, mais on a des gros concurrents américains qui, eux, ont un deal Facebook en direct. Et donc, bah, nous, on peut pas, en tout cas, dealer avec Facebook en direct pour se plugger à WhatsApp. Mais il y a encore plus ubuesque que ça. C'est-à-dire qu'en fait,
quand Facebook… Quand je dis, on peut pas, vous avez essayé.
Évidemment. Et depuis 2017.
Vous a répondu.
Podzob, 10 fois. Mais il y a encore plus ubuesque, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est connectés donc, depuis…
Alors que je rappelle, la boîte sert des centaines de milliers de clients dans le monde et depuis, quelques millions d'utilisateurs par mois.
Depuis 2017, on est connectés à Messenger. Et en fait, Facebook a lancé une offre concurrente en 2018, il me semble.
Ils ont acheté une boîte, c'est ça?
Non, avant ça, ils ont essayé de faire un produit similaire à CRISP en interne. Et en fait, petit à petit, pour forcer les gens à utiliser ce produit interne, en fait, ils nous limitent des accès petit à petit, au principe de la GDPR, etc. Par exemple, pendant très longtemps, quand vous receviez un message d'un client depuis Facebook, nous, Facebook, nous autorisait à répondre que pendant une window de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, un client vous envoie un message un samedi, mais en fait, le lundi, vous débarquez sur CRISP, vous voulez répondre, paf, c'est pas possible, à te faire foutre.
Par contre, tu peux dans Facebook.
Et donc, évidemment, les gens, ils viennent nous voir, mais c'est totalement débile. Genre, je ne peux pas répondre depuis CRISP à mon client, c'était un week-end, j'ai rien pu faire. Et donc, en fait, bah, mécaniquement, il y a des clients qui ils se sont tournés vers l'inbox Facebook. D'autres situations comme ça. Facebook a commencé, là, l'hiver dernier, à nous enlever des API. Donc, on ne pouvait plus envoyer de messages audio, je crois. On ne pouvait plus avoir la photo de profil de l'utilisateur. Et petit à petit, en fait, ils nous enlèvent des API. Et en fait, du coup, bah, ça avantage leur inbox. Donc, en fait, on a plus d'infos sur l'utilisateur dans l'inbox Facebook, au principe de la GDPR, machin truc, que
donc,
dans
en fait, à ce moment-là, ils retournent
contre
les Européens.
Oh, exactement. Et donc, au final, on a moins d'accès maintenant que d'accès avant. Et donc, en fait, ils ont fait une distorsion de concurrence petit à petit en avantageant leur propre produit. Et donc là, récemment, il y a un an, voyant que leur stratégie de développement dans le marché du messaging était limitée, qu'ils n'allaient pas assez vite, ils ont racheté un concurrent Crisp. Ils l'ont racheté pour à peu près 1 milliard. Et en fait, on est dans le même genre de deal. En fait. C'est qu'en fait, il y a une vraie distorsion de concurrence puisque, de facto, Facebook s'avantage lui-même vis-à-vis de ses API. En fait. Et nous, on n'a pas les mêmes API. En fait. On n'a pas les mêmes... En fait, si vous voulez, c'est comme si Apple, qui a Apple TV+, qui est donc concurrent Netflix, c'est comme si Apple interdisait Netflix de faire de la 4K. Et en fait, on est tout à fait dans le même genre de situation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fournir le même niveau de service. Ça n'est pas possible, by design, à cause des API. Et en fait, c'est une situation totalement ubuesque. Et par exemple, Facebook, en fait, vont se protéger de ça vis-à-vis de la GDPR. C'est-à-dire, en fait, on est obligé de le faire. L'Union européenne nous interdit le partage de données, etc. Et donc, en fait, on va limiter l'accès des données.
Et en fait, ça, c'est un truc qui arrive régulièrement. Ça nous est arrivé plusieurs fois sur des produits qu'en fait, quand tu commences à avoir du succès, les fameuses API ouvertes qui étaient sympas au début, en fait, petit à petit, se referment. Tu reçois plus tous les messages, il y a des petits problèmes, et des machins. Et en fait, les mecs se capturent le droit de t'empêcher, en fait, de progresser. Et aujourd'hui, ce qui manque dans la loi, c'est la capacité à faire un recours immédiat pour te sauver. Parce qu'en fait, au moment où tes clients perdent la connexion à Facebook Messenger, ce qui est une décision interne de Facebook, et en fait, tu es en train de tuer ton business, bah aujourd'hui, dans la loi, tu ne peux rien faire.
Nous, on a
qu'il faudrait pouvoir faire un recours disant, mais ça, c'est de l'abus de confiance.
Nous, on a eu un cas comme ça. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica en 2018.
Ouais.
Ce qui est littéralement de la faute à Facebook. Mais on a vraiment trinqué chez nous et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, suite au scandale, Facebook a demandé à toutes les entreprises ayant des connexions chez eux de se faire revalider par un humain. Et donc, nous, on a dû suivre le process et on a dû faire valider, certifier, on va dire, notre connexion avec eux. Et en fait, ils ont eu tellement de demandes qu'en fait, ils ont fait les validations un peu rapidement. Et nous, l'agent qui a fait notre validation, il a fait le check-up super rapidement, on a regardé les logs. Franchement, c'était complètement débile. Et en fait, la justification, c'est « je ne trouve pas le bouton « Logging with Facebook », paf, je stoppe la validation. »
Ah oui.
Donc en fait, du jour au lendemain, en fait, on dégage de Facebook. En fait. Et donc du jour au lendemain, nos clients ils viennent nous voir en panique, en mode « je ne peux plus me connecter à Facebook, je ne peux plus recevoir de messages depuis Facebook ». Pour un problème qui est juste un problème de validation côté Facebook. Et alors là, je peux vous dire que pour avoir un recours pour se refaire valider par Facebook, ça a été la croix et la bannière. Et aujourd'hui, on a le même problème avec Instagram, en fait. Hein. Et en fait, aujourd'hui, je ne peux pas me connecter avec Instagram pour une histoire débile de validation humaine. Officiellement, c'est juste Facebook, leur team de validation qui n'arrive pas à trouver le bouton login with Facebook. Alors qu'il est obvious. Hein. Il est obvious et franchement, chez Crisp, on fait du support client. Genre, jamais personne en 4 ans m'a demandé où est le bouton. Jamais. Donc, il y a manifestement soit un problème de process chez eux, soit un problème de mauvaise foi.
Je pense que c'est un point très important à comprendre sur les API. Souvent, les gens ont l'impression que les API sont open et qu'il n'y a pas de problème.
Mais pas du tout.
Mais c'est pas vrai. Et en fait, ça rentre dans des relations contractuelles en fait, qui sont pas équivalentes, hein, puisque du coup, on est tout petit, ils sont énormes, machin. Et en fait, tu rentres dans une relation où en fait, ils ont le droit de vie et de mort sur les business qui sont générés. Ce fameux web des open API, en fait, il n'existe pas. C'est un fantasme.
Et même une boîte beaucoup moins evil que Facebook ou Google, Discord, tout le monde kiffe Discord, les gamers adorent Discord, et donc nous, chez Crisp, on a fait un système de connexion à Discord. Crisp, on est une boîte extrêmement populaire qui est utilisée par 300 000 personnes à peu près, enfin 300 000 entreprises, ce qui est assez considérable. Hein. Et donc quand on a fait notre intégration Discord, en fait on débarque sur le store Discord et nos utilisateurs naturellement commencent à utiliser notre intégration Discord. jusqu'au point où on a une croissance et en fait au bout d'un cap de je crois 100 utilisateurs sur ton bot, il faut avoir une validation par un humain chez Discord. C'est comme ça, c'est leur process. Du coup, on réclame une validation, on signe des paplards, je file ma carte d'identité. En fait, on a une réponse de Discord complètement débile. Et en fait, c'est en gros, vous avez une croissance qui est inorganique. Du coup, les gars, vous ne validera pas.
Ah ouais, carrément.
Mais évidemment, enfin, genre Crisp, on est une boîte qui est populaire, on a un Alexa Rank 2800. Enfin, évidemment que quand on déploie une feature comme ça, il y a de l'utilisateur derrière. Et donc, le taux de croissance sur la feature, il est élevé. Et donc, rapidement, on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Et en fait, juste parce qu'on sort du modèle de Discord et qu'il y a un problème de process manifestement chez eux, et bien en fait, on se fait dégager de chez Discord d'une manière totalement irrévocable.
Donc, si tu avais fait l'intégration
Discord... Je ne peux pas faire appel.
Si tu avais fait l'intégration Discord tout au début de Crisp, ils auraient vu que tu as une croissance
progressive et tout. Et ce serait passé.
Donc, il n'y a que des nouvelles boîtes, en fait, qui peuvent s'intégrer à Discord. On a fait un truc aujourd'hui.
Mais en fait, une boîte comme Crisp, où bah, nous, quand on déploie la feature rapidement, ça on a beaucoup de gens. Ben, en fait, on se fait bloquer et rate limité et avec une décision qui est sans appel. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai un message totalement lunaire avec Discord qui dit ben, « Les gars, vous avez trop de croissance. Du coup, on vous bloque et vous ne pourrez pas faire appel à cette décision. Jamais. » Genre, c'est là, on est dans le néant.
Vache.
Et donc, c'est comme ça. C'est juste pour vous montrer que, en effet, quand vous jouez dans le jardin
des autres,
eh ben, ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Et personne n'ira vous défendre. Personne.
C'est flippant.
C'est comme ça.
Donc, les API ne sont certainement pas neutres, en tout cas pas dans les processus de review, qui, je pense, n'ont jamais été imaginés au moment où une boîte comme Facebook ou Discord ont été créées. Processus de review manuel, c'est un truc qui est quand même contre-intuitif quand tu fais de l'IT.
Et
t'imagines que le processus il est forcément pété quoi.
Mais le processus est pété. Par exemple, faut savoir que souvent dans beaucoup de systèmes de review manuels, en fait, les gens qui connaissent très bien les gens qui font la review, par exemple, vous êtes à San Francisco et vous connaissez les gens en marketing dans telle ou telle boîte.
Ouais.
Bah, en fait, le deal que tu fais, c'est que tu fais en sorte de pendant une ou deux semaines d'être un peu au-dessus des autres. Et donc, distorsion de concurrence énorme. Par exemple, il y a un compte Twitter où, en fait, on peut voir des emails ouverts de la tech. Et donc, il y avait une discussion très intéressante entre des gens d'Apple et notamment du marketing où, en fait, ils se plaignaient du moteur de recherche de l'App Store.
Ouais, c'est Internal Tech Emails.
Ouais.
Et en fait, @TechEmails.
Vous recherchiez Dropbox sur l'Apple Store. Et en fait, l'application Files ou iCloud, elle est au-dessus. Donc, c'est totalement anormal, finalement, que dans une plateforme, c'est comme si vous cherchiez Netflix sur l'App Store et que Apple TV Plus sorte avant.
Mais ça c'est probablement Dropbox qui paye le fait de ne pas avoir revendu leur boutique à Steve Jobs en 2014.
Et donc, ça arrive, en fait. Quand on arrive sur une plateforme, on a un store et en fait, on est à la merci de ce genre de trucs. Et donc, Apple privilégiait ses propres produits. Et c'est pareil, plein de petits développeurs indépendants qui faisaient une app sur l'App Store. Et en fait, on avait des compagnies derrière qui mettaient des millions en pub pour juste être les premiers sur les résultats.
Des millions en pub et des millions en review foireuse aussi.
Donc ça n'est pas normal. Et on est à la merci de ça quand on est sur des plateformes.
Surtout quand tu fais un business legit, c'est hyper compliqué. Ok, on va peut-être passer au lien suivant.
Allons.
Alors, la production des... Alors, rien à voir avec la choucroute, ça va être très difficile de faire une transition. On parle toujours d'Apple avec la production des M1X qui débute. A priori, les usines seraient en train de tourner à plein régime. Notamment Samsung, si j'ai bien compris, qui serait en train de produire des mini LED pour les écrans des nouveaux MacBook.
Mais la vraie innovation réside... Enfin, vraiment dans l'architecture processeur, moi je trouve que je suis assez déçu personnellement du plateau que nous offre, l'évolution en plateau que nous offre Intel depuis quelques années.
Et AMD aussi.
Et notamment pour l'industrie consumer, parce que je pense que pour les serveurs c'est un peu différent, mais oui. En tout cas, c'est désolé, mais on est sur des bonnes grosses merdes, quoi.
Surtout en termes d'autonomie, c'est un des problèmes qu'on a souvent pointé du doigt avec des ordinateurs portables qu'on utilise majoritairement aujourd'hui. Enfin, nous, en tout cas, chez Clever Cloud, puis chez vous aussi, Chris. Oui. Quand on a vu l'autonomie des M1 qui frôlait les 20 heures après avoir connu des MacBooks qui faisaient la plupart du temps pratiquement, mais je sais pas moi, 8 heures le même dans pas, le dos en demi-luminosité sans Wi-Fi,
non,
sans
mais même en termes de performance, c'est absolument bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, on a testé chez nous le. Déjà, on a été testeurs des SDK ouais. chez Apple. Là, c'est des espèces de Mac Mini tout petits qui avaient un processeur d'iPad.
Que vous avez dû rendre.
Et on a, ouais. Et donc là, quand ils ont sorti les vrais Mac M1, on a testé le MacBook Air. Et en fait, la machine, elle est aussi puissante là que mon MacBook Pro. Elle a pas autant de RAM, mais je peux vous assurer que j'ai compilé du Rust dessus, le compile time. Et genre 2 secondes plus lent
ouais.
sur le MacBook M1. Et on parle de compile time de 2 minutes. Hein.
Ouais, donc, on avait déjà parlé des performances du M1 qui était quand même assez fofolle, même sur des applications qui n'étaient pas conçues pour. Donc Rosetta 2 avait bien marché. C'est un transpiler qui vous permet d'avoir des applications x64 vers du Apple
Silicon. Et qui fonctionne réellement bien, c'est-à-dire que nous, notre ouais, format tourne en local, donc on fait tourner du Redis, du MongoDB, du MySQL, tout un tas de choses. Franchement, on a fait tourner le même script qui derrière installe les dépendances Homebrew, le même script run sans problème, et genre sans aucun problème. Et donc en fait, on peut installer toute une infra qui tourne normalement sur du Intel, sur un MacBook M1. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est les futurs processeurs vont débarquer courant probablement octobre-novembre avec les nouvelles machines. Et donc là, ça va vraiment apporter une révolution, je pense, pour les professionnels, puisque enfin on va avoir des machines pour les professionnels.
Pour faire du montage, pour faire de la production graphique.
Même du dev, quoi.
Genre, et du dev.
Le seul petit souci, ce sera pour les machines virtuelles où
ça avance.
C'est compliqué.
Je regarde régulièrement les états sur l'avancée des VM et tout. Bon, déjà, Docker est enfin compatible avec M1,
ouais.
Ce qui est pas mal du tout pour les développeurs qui font du Docker en local. C'est pas mal. Et puis après, les suites virtuelles sont bien accompagnées d'ailleurs par Apple, par leurs équipes de dev, pour engendrer une transition. Il y a même Microsoft qui essaie de faire tourner Windows sur les M1 depuis un certain temps. Ils produisent des résultats.
Non, j'ai fait du data analytics sur ma machine cette semaine. Enfin, c'est quand même un MacBook Pro qui est très élevé, qui a un an. Franchement, toute mon interface était totalement pas
frisée.
Responsive. Genre, l'interface était frisée. Donc il y a un vrai problème. C'est peut-être aussi un problème kernel, hein, mais en tout cas aujourd'hui sur la génération actuelle de machines, il y a un vrai problème de performance.
Ce qui est marrant, c'est de voir le clean-up qu'ils font. Régulièrement, Apple va serrer la vis quand ils font des changements d'architecture. Je me souviens, c'était en 2013 ou 2014, ils avaient dit « Bon, c'est bon, on est passé à Intel, maintenant toutes les applications Carbon et toutes les applications universelles seront plus supportées à partir de la prochaine version de OS. » Et donc là, tu avais des applis entières qui passaient au cimetière parce qu'il n'y avait plus personne
pour les mettre. Ça met beaucoup plus de temps.
Ça met du temps, ils mettent le temps, ils font une transition tranquille. Mais j'imagine là, d'ici 4-5 ans, quand Apple va dire « Bon, les gars, que du M1, on ne fait plus de grosses compatibilités avec du
cimetière. » Mais notamment parce que la compatibilité, il y a une partie de la compat qui se fait, me semble-t-il, directement au niveau du processeur. Donc tant que la compat est prévue dans leur
Ah oui, il y a un cœur qui est dédié à ça.
Alors c'est pas un cœur, mais il y a des parties d'architecture qui sont dédiées à annuler certaines instructions. Ouais.
Ouais, t'imagines bien qu'ils vont finir par.
C'est pour ça que c'est aussi performant. Hein.
Ouais, en plus ça marche très très bien. Donc voilà, si vous voulez changer de si vous voulez tester ces M1X, ils sont dans les tuyaux, ils vont arriver a priori pour la rentrée. Voilà. Quentin, lien suivant.
Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant de regarder, je sais pas si vous avez regardé la tronche en ce moment de GitHub Discussion, toute la partie un peu où tu poses des questions, des gens te répondent, tu peux valider des réponses. Moi j'ai trouvé que ça, ce forum ressemblait quand même assez furieusement à un espèce de Stack Overflow, et en fait j'ai trouvé ça assez intéressant ce qui est en train de se passer là-dessus. Et je ne sais pas si vous vous en servez ou pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des projets dans lesquels ça montait bien.
Je t'avoue que j'avais pas regardé, mais en fait, c'est des discussions qui sont liées à des projets, donc liées à des repos directement.
Ouais.
Et en fait, t'as un système comme Stack Overflow ou Reddit où tu files en fait des upvotes ou des downvotes.
Ouais, tu peux avoir des priorités en fait aussi, ça permet de gérer de manière plus communautaire. Une communauté, ça me fait penser.
Et en fait, tu peux l'activer ou le désactiver. Et je trouvais que c'était assez intéressant en fait cette approche. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'en fait GitHub essaye de bouffer Stack Overflow.
Enfin, une boîte rachetée par Microsoft où ça se passe si mal.
Il reste indépendant apparemment beaucoup. Même si GitHub, ça leur a fait pas mal de mal de s'être fait racheter par Microsoft, parce que pas mal d'entreprises, pas mal de corporations, ont arrêté d'acheter du Microsoft après s'être fait vraiment avoir par les pratiques commerciales pendant les années 90 et 2000. Et du coup, on a vu des entreprises qui étaient absolument traumatisées par le fait de voir du Microsoft chez eux.
Globalement, je pense qu'ils n'ont pas vu grand-chose commercialement passer par...
Dans les années 90, c'était chaud avec les licences.
Oui, non, mais là, aujourd'hui...
Et maintenant, quand ils ont vu que GitHub passait chez Microsoft, on a vu GitHub se faire tâche d'entreprise juste parce que c'était racheté par Microsoft. Et je ne dis pas que c'est une décision raisonnée, mais ça fait partie de ces traumas qui sont marrants à observer dans le paysage. Mais non, GitHub discussion...
Ça a l'air, une belle fonctionnalité.
C'est super cool.
C'est bien réalisé.
Moi, je trouve que GitHub évolue pas mal. Et je trouve que la façon dont GitHub évolue est hyper intéressante parce que tu vois, le rachat par Microsoft, où clairement ce qu'ils ont racheté, c'est pas la plateforme GitHub en tant que logiciel pour aller le vendre.
C'est la communauté de développeurs.
Comme remplacement de Teams, mais vraiment, tu vois, l'idée d'en faire un réseau social pour développeurs, je trouve que c'est assez intéressant. Du coup, ils développent plutôt des features basées là-dessus, même si beaucoup de features sont discutables et on en a parlé déjà dans le podcast de certaines expérimentations, on est moyen d'accord, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils essayent de faire vraiment des trucs de social coding et je trouve que GitHub est pas mal rebasé sur social coding et moi j'ai trouvé que, enfin j'ai été très surpris quand j'ai trouvé discussion, j'ai trouvé propre en fait et je trouve que c'est pas mal, voilà. C'est de mon point. Après moi je reste un assez grand convaincu par le réseau de chat là.
Gitter?
Non, le truc qui fait que justement Gitter migre vers truc à base de Riot. Aidez-moi.
Alors là-dessus, je peux pas pouvoir t'aider, jeune, je vois pas ce que c'est.
En point YAML, en instant message, le Element. Comment s'appelle le protocole? Matrix. Si vous prenez Matrix Element qui aujourd'hui intègre à manger Gitter, donc les gens de Matrix Element ont fait un pont.
Je connais
et
pas
les Gitter. Je suis assez fan du truc. Pour moi, c'est le futur d'IRC. Ça manque encore un peu de polish pour être utilisable par le commun des mortels, mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Quoi.
Voilà. Ok,
bon, bref.
Et si on parlait de tous anti-Covid?
Vous voulez qu'on saute dans les trucs? Qu'est-ce qu'on a? Bon. Moi, j'ai été interpellé un peu sur ce qui se passe sur tous anti-Covid, sur la façon dont il y a des discussions aujourd'hui sur la qualité de code au niveau de tous anti-Covid.
Alors donc, là, on parle notamment de tous anti-Covid Vérif. Si je regarde bien les...
Non, c'est donc c'est l'application qui sert à vérifier les QR codes générés en... C'est les 2D docs, non? Quelque chose comme ça.
Ouais. C'est globalement ça.
Et donc, concrètement, j'ai vu vite fait l'info passer, mais j'ai l'impression qu'il y a du code qui est caviardé là-dedans.
Bah en fait, ils font du faux open source. En fait, il y a de l'open source partiel, mais la méthode de développement n'est pas open source. Et en fait, ils ont un process de relivraison en open source, mais ils sont très clairs sur le fait que le code qui est libéré n'est pas le code qui est buildé, en fait.
Ouais, okay.
Et donc, il y a des parties du code qui sont caviardées. Et c'est vrai que alors, d'abord, ça pose un problème de transparence, ce qui est dommage parce que sur un sujet aussi épidermique, dirons-nous, il y aurait peut-être eu une opportunité de traiter le sujet de façon
transparente
transparente et qualitative, Et je pense que ça aurait pu être une bonne approche. Et surtout, en fait, tu te retrouves avec des erreurs qui pourraient être corrigées par les utilisateurs. Là, par exemple, il y a un truc qui est hyper triste. C'est qu'en fait, tout anti-Covid vérif pendant un moment, je ne sais pas si ça a été mis à jour, mais si tu checkais un code qui était en langue étrangère, bah en fait.
Ça ne marche pas quoi.
Si,
ça validait tout.
Ça valide tout en fait. Et du coup, c'est un peu. C'est un peu tristoun parce qu'en fait, c'est pas nécessairement. Grave, mais en fait, ça, si le truc était open source, ça permettrait aux citoyens à la fois de checker et éventuellement d'aider. En fait, c'est cette partie-là où je ne sais plus ce qui est écrit.
Oui, j'ai lu ça. En gros, si dans tout son petit Covid vérif, si vous aviez un QR code
En
autre langue, en fait, automatiquement, l'application de vérif validait le truc. Ce qui est une faille monumentale, en fait. Imaginez ça. Dans les mains de quelques personnes totalement anti-pass sanitaire, et il y en a, on aurait été vers une inefficacité totale des mesures.
Ah ouais, non, c'est pire que ça. C'est en fait, il suffisait de changer la langue du téléphone, et en fait, là, tout son anti-Covid était paumé. Je trouve que c'est assez tristoun parce que ça pourrait être l'occasion d'utiliser, en fait, ce sujet-là, qui est un sujet polémique, pour prouver l'openness. Et en fait, moi, je trouve ça d'autant plus triste qu'il y a un truc qui existe, en fait, au sein de l'État, qui est Betagouv et Etalab, qui sont sur les services du Premier ministre,
tout à fait.
Qui passent leur temps à bosser en open source, qui, pour le coup, sur la partie Covid, fournissent des outils web de grande qualité, qui permettent de générer
les applications bêta sont de très bonne qualité.
Tout est open source. Le fonctionnement de la reproductibilité est hyper transparente.
Oui, c'est juste les tokens qui sont caviardés. Hein.
Ce qui est logique, pour le coup. Il n'y a pas de problème avec le fait de caviarder les tokens. Mais du coup, ils ont une vraie démarche open source et je trouve que c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est une démarche, en fait, que je trouve hyper qualitative, pour le coup, dans la relation avec le citoyen. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment tous anti-Covid, gagnerait à aller vers une vraie démarche d'open source avec la possibilité de recevoir de l'aide et en même temps d'être contrôlé, tout comme certains services de l'État le font. Moi, je sais que c'est une discussion que j'ai eue, par exemple, à Nantes, la tarification sociale de l'eau, elle est disponible en open source. Le code qui génère la tarification sociale de l'eau est disponible en open source.
Oui, c'est comme ils ont rendu disponible le système de calcul des impôts. Faut-il pouvoir le comprendre
Oui, mais au moins, en fait, vous avez d'un côté la loi qui est chiante à interpréter. Vous avez le morceau de code qui, côté impôt, va l'interpréter. Et après, ça permet de recoller, d'avoir la même interprétation, d'être propre. Et après, même, il y a des gens qui travaillent. J'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps.
Pour défendre un cas de anti-Covid. Parce que ça a été très critiqué au début, notamment avant tous anti-Covid, ça s'appelait
anti-Covid. Non, c'était pas ça.
Non, Stop Covid.
Stop Covid.
Avant, l'application s'appelait Stop Covid, et ça a vachement gueulé chez les développeurs parce que c'est du tracking, parce que ça a été fait par des boîtes privées, parce que ça coûtait très cher. Et je pense que vous en étiez un peu de cette partie-là.
Ah ben moi je pense toujours que la partie Bluetooth du truc est une catastrophe.
Mais en fait, après, ils ont rajouté d'autres choses, hein, notamment l'histoire des attestations, maintenant le pass, avoir des stats dedans, et c'est ce qui a vraiment fait exploser l'usage de l'appli. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir le tracking sur l'appli. Et moi, pour le coup, pour défendre cette appli et pour me faire un peu l'avocat du diable parmi ceux qui n'aiment pas cette appli, je pense que pour une fois, on a une appli qui est vraiment bien branlée. Et genre, c'est rare d'avoir une appli
à l'usage.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Genre, on est vraiment travail de design. On est sur vraiment une belle exécution. Ça marche bien. On n'a pas eu de couac industriel dessus, de downtime. Genre, juste.
Si, il y a eu des downtime.
Ça marche.
Ils n'ont pas été capables d'encaisser les inscriptions à une époque.
Au début.
Ça marche extrêmement bien. Peut-être, oui, il y a eu des ratages au début. Mais je trouve que c'est une app qui fonctionne bien, qui a un beau design. qui a vachement aidé aussi sur la contribution à la vaccination. Bah, désolé, mais genre,
et tu as testé l'accessibilité ? Ça, c'est un truc que j'ai pas regardé de près. C'est l'accessibilité de l'application.
Alors, l'application est disponible en multilingue, en tout cas.
Ça, c'est pas mal.
Moi, par exemple,
valide les codes quand tu le mets en anglais.
Ah, ça, c'est tous anti-Covid vérif.
Qui a un nom d'appli absolument pourri. Déjà, le tous anti-Covid, c'était limite, comme
ouais.
Mais là, tous anti-Covid vérif.
Moi, je suis pas. Moi, je vais être franc sur cette appli. Moi, j'étais pas très convaincu par l'approche Bluetooth à la base pour des raisons très techniques. Et aussi
d'autant
parce que
plus qu'Apple avait sorti son framework
avec Google.
Ouais, et alors autant pour le coup, je suis pas un grand fan des GAFA. Autant pour le coup, si tu veux, c'est des API qui sont tellement bridés par les OS que ne pas aller bosser avec eux, c'était une connerie pour le coup.
Ils avaient l'avantage de pouvoir calibrer le Bluetooth pour faire des trucs à peu près corrects, ce qui a été fait maison par les développeurs.
Après, ce qui a prouvé plusieurs fois que ça fonctionnait pas. Le nombre d'alertes est dégueulasse. Les pays dans lesquels ça a été rendu obligatoire ont prouvé que c'était quand même globalement assez pété comme idée. Et de l'autre côté, moi j'ai pas mal codé de Bluetooth à une époque et j'ai fait partie des tout premiers à coder en BLE. Avec Géal, on avait codé un truc assez drôle et on avait codé en BLE. On a fait pas mal de Bluetooth. Le protocole Bluetooth, c'est quand même un truc assez moisi en fait. Si tu veux pas genre connecter un casque audio.
D'où l'intérêt de laisser Google et Apple te laisser la.
Gérer la.
Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout pour ouvrir les protocoles Bluetooth parce qu'en fait, aujourd'hui, les téléphones avec du tout anti-Covid, Bluetooth tracking activé, sont en fait des passoires d'information et je pense que c'est une connerie technique. Je pense que le reste des fonctionnalités, why not? Mais moi, j'avoue que je m'en suis très bien sorti avec les formulaires web de chez MetaGlov et j'étais très satisfait là-dessus. Et pourtant, tu vois, je suis tout ce que tu peux de favorable au pass sanitaire, à la vaccination, tout ce que
oui, après, il y a ceux qui sont anti-appli.
Mais moi, je trouve que l'application, là, dans le cas présent, je n'ai pas nécessairement envie de revenir sur ça. Je trouve qu'effectivement, ils l'améliorent. Je trouve qu'ils font des lancements qui manquent un peu de testing. Et je pense que c'est dommageable à la magie de l'appli. Mais je trouve que c'est surtout... Je trouve que c'est dommage pour l'État, alors qu'ils avaient une cellule qui sait bien maîtriser les processus open source
oui.
et d'ouverture, de ne pas s'appuyer dessus pour avoir quelque chose de qualitatif en même temps et une démarche d'ouverture qui prouverait l'ouverture de l'État sur le sujet. Et j'enjoins tout le monde à essayer de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie démarche open source sur tous anti-Covid. Alors que, encore une fois, si vous allez sur le compte GitHub de BetaGlue, c'est rempli, quoi. Enfin, vous avez des projets qui vivent.
Alors, il me semble que pour tous anti-Covid, c'est chez l'INRIA, je crois qu'ils ont mis le... C'est sur leur GitLab.
Ouais, du coup, c'est sur GitLab de l'INRIA, etc. Mais tu vois, tu prends le compte GitHub de BetaGlov, tu vas sur la première page des projets, la dernière update était... Enfin, le dernier projet sur la première page du projet,
secondes.
C'est il y a 5 heures, tu vois. Enfin, il y a des tonnes de projets qui
j'ai pas
vivent.
L'impression vivant, que ça soit la même team qui ait fait
non, c'est pas la même team.
Les deux applis. Parce que pour le coup, l'application Tous Anti-Covid Vérif, quand on regarde le code back-end, c'est un peu sale quand même. Hein.
C'est du Java, non ? C'est quoi ?
Ouais, mais ouais. Genre, c'est un peu moche, tu vois. Rien que les nommages et les trucs. C'est pas horrible, hein, mais ouais. On voit que c'est pas des perfectionnistes ceux qui ont fait ça.
Ouais, puis je trouve que c'est dommage de pas aller vers la. Enfin, si jamais il y a des gens qui ont bossé sur le sujet qui peuvent nous expliquer pourquoi autant de fermetures alors qu'on a déjà des gens qui sont épidermiques sur le sujet.
Eh ben, écoute, invite les gens de l'INRIA pour le prochain podcast.
Enfin, vous êtes dans une situation où déjà tout le monde est épidermique. Il suffirait qu'il y ait un vrai process open source. Et je suis désolé, mais dumper un zip à la semaine, d'un zip caviardé à la semaine, c'est pas une démarche open source, quoi. Et je trouve ça assez dommage. Et pourtant, je suis favorable à l'utilisation de méthodes sanitaires assez fortes. Enfin, encore une fois, c'est pas du tout le point.
Ouais,
pour moi, c'est dans la méthodo, c'est un peu
triste. Je pense que c'est un début. C'est bien d'avoir ce débat. Je pense que ça va changer, enfin, tu vois, rien que quand BetaGlov est arrivé, ça a apporté tout un tas de nouveaux trucs. Et je pense qu'on va d'ailleurs arriver sur une discussion plus philosophique
et je le redis,
vers plateforme.
Je le redis pour les gens, BetaGlov, c'est une super initiative. qui a été conduite par l'État, qui permet d'avoir des entrepreneurs pour l'action publique. Si jamais vous avez des services de l'État où vous pensez que bah, ils sont mal faits
ou inexistants,
regardez ce que fait BetaGlou. C'est à la fois un modèle de gouvernance et de construction des projets qui est génial, qui permet
qui
aujourd'hui
avec les mêmes outils que ce que utilisent les startups normales. Nous, on a des boîtes de, enfin des boîtes des services de BetaGlou qui utilisent Crisp. Et en fait, c'est assez malin parce qu'en fait, pour des petits montants, bah, ils n'ont pas à passer par des plateformes de marché public.
Nous aussi, on bosse avec beaucoup de services de BetaGlou.
C'est ça. Ouais.
Et franchement, enfin, et même les trucs qui sont pas chez nous, sont, moi, je les trouve très bien. Et la façon dont ils font réabsorber les services créés chez BetaGlou par les services dans lesquels ça aurait dû exister.
Ça marche très bien.
Et très intelligent. Donc, on regarde
le pass culture, par exemple.
Il faut qu'on invite des gens de BetaGlou.
Le pass culture a été commencé comme ça chez BetaGlou et ensuite a été déployé nationalement.
Plein de projets. Il faut regarder leur GitHub, il est super intéressant.
Ouais, et c'est des trucs qui sont.
Mais France Connect aussi, si ma mémoire est bonne, non? France Connect aussi, non? C'est un projet
mais
BetaGlou.
En tout cas, c'est des choses qui rendent service pour le bien commun. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir aller vers l'État plateforme.
Bah, toute moi, démarche simplifiée.
Moi, c'est... le premier, j'ai toujours critiqué beaucoup d'applis de l'État, par exemple l'Agence nationale des titres sécurisés, notamment parce que à chaque fois que l'État veut une plateforme, d'ailleurs c'est bien connu en France, quand on a un problème, on veut le résoudre par un numéro vert ou par un site internet.
Avec un gros moyen.
Et concrètement, nos députés font un projet de loi qui est translaté ensuite par une loi. Ensuite, il y a un marché public. Et ce marché public, on va faire un appel d'offres avec un lot qui va être filé à Capgemini, un lot qui va être filé à
OTC2I.
Et on se retrouve avec des projets comme Louvois qui coûtent un milliard. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de plateformes de l'État sont totalement pétées. Mais en fait, BetaGlou, pour le coup, c'est vraiment des gens en interne à l'État qui font ça.
Avec des équipes mixtes, gens extérieurs, mais des compétents en informatique et des gens du métier à chaque fois. Il faut absolument qu'on les invite parce que j'adore.
C'est une belle exécution. Et en fait, finalement, ils ont affaire avec beaucoup moins de moyens, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup mieux exécutée. Des choses qui étaient faites avant par des SS2I qui coûtent une fortune,
complètement externes au métier, qui galéraient.
Et au final, on avance plus vite comme ça. Et surtout, au final, le code est mis en open source. De toute façon, en plus, c'est propriété du bien commun. Enfin, c'est propriété du peuple français, propriété de l'État. Donc, c'est bien qu'on ait accès au code source. Et ça permet à n'importe qui de pouvoir contribuer et d'améliorer les choses.
Tout à fait.
En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de services. Là, j'étais sur les différents systèmes. Et effectivement, il y a des tonnes de services qui ont été...
Ouais, j'avais vu un truc cool. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait une API de geocoding. Enfin, aujourd'hui, il y a un tas de... Par exemple, si tu veux envoyer un numéro de rue et d'avoir le numéro de rue corrigé, bah, aujourd'hui, il y a Google qui fait ça, les geocoding.
J'avais pas regardé
et,
ça.
Et tu vas devoir payer les API. Et donc là, il y a une API de geocoding sur BetaGlou. Qui permet justement d'avoir une vraie API de geocoding avec toutes les rues françaises. Et ça marche très bien.
Bref, toujours est-il que allez voir ce que fait BetaGlou, je vous ai mis leur compte GitHub, allez voir les sujets. Et moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et je vous recommande de checker ce que font ces gens. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Tant qu'on est sur le Covid, parce que du coup c'était dans les liens et on verra après si on a envie de traiter les autres liens, mais il y a un truc qui était très intéressant. Moi je trouve que le Covid amène à quelque chose. Moi c'est marrant parce qu'au début de la pandémie, c'est mon côté idéaliste, je crois, j'ai toujours pensé qu'on allait tous s'allier pour battre la pandémie ensemble.
Non, et puis surtout c'est parti, t'as pensé que l'économie allait prendre cher, et l'économie a pris cher, mais en tout cas ça a permis en tout cas d'autres modèles de travail et de coopération.
Moi, j'ai pensé qu'il y aurait une certaine union des gens pour fighter l'économie d'un point de vue mondial. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que c'est pas le sujet. Et en fait, ça nous met face à un cas qui est... là, il y a quelqu'un qui fait un peu de data.
Ouais.
C'est un post Reddit. Il y a quelqu'un qui fait un peu de data. Il a créé quelques centaines de profils, de faux profils sur Facebook.
Ouais.
Qui balançait que des fake news, mais à 50% pro-vax, donc pro-vaccination, et à 50% pro-anti-vaccination.
Ah oui, ça c'est...
Donc, que de la fake news, mais des deux côtés. Et en fait, le résultat de ces recherches, c'est que, pour finir, ces profils se sont majoritairement pas fait censurer. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à filtrer les fausses infos de Facebook est dégueulasse. Mais qu'en fait, les profils qui se sont fait filtrer, c'est à 3 fois plus nombreux les profils pro-vax. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils regardent la suite de ces datas, c'est que ces profils anti-vax sont plus followés, parce que la communauté anti-vax sur Facebook grossit, et qu'en fait, l'algorithme de Facebook qui semble shotter les fausses infos est en fait aussi lié à sa capacité à te garder présent sur la plateforme et au temps de cerveau disponible que tu accordes à Facebook.
Ouais, j'ai l'impression.
Et en fait, si tu racontes de la merde tout en faisant gagner de la pub à Facebook, tu peux continuer à raconter de la merde. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, mais c'est peut-être aussi un biais des algorithmes, un biais des bulles. En tout cas, enfin, ce qu'on voit clairement sur le graphe, c'est qu'à peu près seulement 1/10 du contenu anti-vax est supprimé. Donc, ça veut dire que 9/10 reste. Et concernant le contenu qui est pro-vaccin, on est à peu près sur 2/5 du contenu supprimé. C'est énorme, hein.
Et en fait, c'est très intéressant de voir qu'en fait leur filtre, bah, il est nul, mais qu'en fait, il va quand même laisser se propager le contenu qui est le plus regardé. Et en fait, ça veut dire que leur filtre, en fait, filtre le moins le contenu qui est le plus dommageable, parce que il est faux et le plus regardé. Et il se trouve que dans le cas présent, c'est le contenu anti-vax qui est le plus regardé. Et en fait, moi, je trouve que c'est très important parce que je trouve que ce qu'on voit bien sur le contenu vaccinatoire, et c'est vrai dans d'autres sujets, parce qu'on peut, parler de pas mal d'autres sujets qui créent des bulles comme ça, c'est que moi, ce que je vois, c'est que les réseaux sociaux, par leur capacité à vouloir te faire consommer, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, le maximum de contenu et garder le maximum de minutes utilisateurs à la journée disponibles sur leur application, en fait, te donnent que du contenu que tu as envie de voir.
Bien sûr.
Et donc, en fait, c'est des machines à radicalisation. Et en fait, tu vois partir des gens qui étaient modérés sur un sujet et qui, en fait, s'enferment dans des théories de plus en plus extrêmes, quel que soit le sujet. Et là, dans le cas présent,
essayer sur YouTube, hein, ou sur Facebook, tu commences à liker 2-3 trucs que tu ne voulais pas liker initialement. Et en fait, il va te remettre les
signes. Tu as plusieurs degrés d'antivax aussi, donc tu rentres progressivement.
Moi, j'ai fait l'expérience de discuter avec certains de mes contacts. J'ai des contacts qui étaient des anti-pass sanitaires. Ouais. Pas des anti-vaccinations, mais des anti-pass sanitaires.
Parce que c'est obligatoire, etc.
Ouais, et parce que dans l'architecture du pass sanitaire, on peut poser des questions de tracking de data, etc. Ce qui nous ramène au sujet de pourquoi il faut libérer tous anti-Covid. Pourquoi cette histoire de liste noire ? Est-ce qu'elle check un serveur ? Est-ce que tu fais une liste noire téléchargeable avec des checks client-side ? Enfin, tu vois, des vraies questions techniques pour finir sur le tracking qui, à mon avis, gagnerait par le gouvernement avoir une vraie approche open source sur le sujet, ce qui permettrait à l'énorme majorité de développeurs de checker et donc d'être caution morale de ce qui se produit, voire d'avoir des gens comme la Quadrature qui pourraient avoir des groupes d'experts. Tu vois, qui sont des gens qui s'intéressent à la privacy, qui checkeraient comment ça se passe en vrai, tu vois, et sur lequel on pourrait avoir des questions morales qui s'appuieraient. Mais en fait, ces gens-là qui étaient à la base anti-pass sanitaire, en fait, dans l'enfermement de réseaux sociaux dans lequel ils se retrouvent,
c'est encore pire,
se mettent à relayer des études bidons qui n'ont aucun sens sur l'oxyde de graphène, de je sais pas quoi, d'antennes 5G dans le vaccin, alors qu'à la base, c'est des ingés. N'importe quel ingé qui a fait des études, c'est qu'une antenne nanoscopique, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, une antenne par définition, donc pour ceux qui ne sont pas ingés et qui nous regardent, une antenne par définition sur de la 5G,
oui,
si elle ne fait pas
si
cette taille-là,
elle
ne capte pas. En fait. Enfin,
si le truc est avec 99,9% d'oxyde de graphène, il ne sera pas à l'état liquide, en fait. Hein.
Oui, puis ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, genre, technologiquement, juste pour que vous compreniez, c'est un petit peu comme si vous me disiez, je regarde à travers un trou de 2 mm placé à 10 cm de mon œil, et j'essaye d'estimer combien a doigt quelqu'un qui est collé à ça. Vous ne pouvez pas, en fait, vous n'avez pas la taille pour voir. Si vous n'avez pas une taille d'antenne, vous ne pouvez pas capter l'onde. Si vous voulez, c'est impossible de faire une antenne nanoscopique. Je sais que Marvel vous fait croire le contraire et que dans Iron Man, il a des costumes en nanoparticules, etc. Sauf que ça, c'est littéralement de la science-fiction. Mais et c'est littéralement de la fiction. Ça n'arrivera jamais de la vie.
Les raisons de pourquoi les réseaux sociaux mènent à ça, évidemment,
il y a le
biais d'enfermement à cause des bulles. Et on le sait que les réseaux sociaux ont vraiment un biais d'enfermement. Et en fait, des gens qui sont à peu près modérés peuvent vraiment finir radicalisés. Et politiquement, ça se voit aujourd'hui. On est petit à petit, les gens sont... On est dans une subdivision petit à petit de classe politique. Enfin, il y a plein de sous-genres aujourd'hui. Après, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe. Mais c'est en partie
et en fait, quelque ça, chose généré ça par les surenchère. Et ça entraîne une surenchère que vous allez voir dans différents modèles. Des modèles avec lesquels vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Vous allez voir une surenchère entre des gens qui pensent, par exemple, que le féminisme, c'est très bien, et tu parles de gens qui sont comme ça, et qui, en fait, par surenchère, vont finir... Chacun se renvoyant la balle, vont finir par des théories très extrêmes, comme « il faut plus d'hommes ». Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des titres de bouquins hyper agressifs ou ce genre de choses, parce qu'en fait, le contenu qui monte dans une bulle est toujours le contenu qui est le plus clashant, en fait.
Ben oui.
Et donc, du coup, tu crées que des bulles qui, quel que soit l'endroit dans lequel elles sont, sont des bulles d'extrémisation.
Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi pas mal, et je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a pas mal de médias aussi qui rentrent dans ce jeu-là, où en fait, on ne peut plus avoir de débat sur les plateaux télé ou même dans des journaux. On préfère avoir du clash parce que c'est ce qui ramène in fine plus de clics quand ton contenu il passe sur
le
lit.
C'est le même policé pour le sujet des médias.
Pour finir, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de débats chiants et il y a de plus en plus de débats un peu costauds où finalement les gens ils s'envoient leurs opinions à la figure
sans essayer de s'écouter.
Et tu vois, tu finis toujours par envoyer des arguments un peu pétés à un moment donné si tu essaies d'avoir le dernier mot.
C'est insupportable ce que je vous dis. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Taisez-vous. Du coup, nous allons écouter Quentin Adam. Et donc, Quentin Adam, vous êtes anti-réseaux sociaux.
C'est ce qui se passe parce qu'en fait, ils essayent de raccourcir le temps de la prise de parole pour faire une vignette qui s'absorbe.
Parce qu'un article de journal
aujourd'hui de 1000 mots, il est résumé à son titre. Et qu'en fait, si tu veux... Tu te retrouves avec des gens qui vont te partager des articles essentiellement sur leur titre, des vignettes vidéo où une heure de débat va en fait être résumée à une prise de parole de quelques secondes. Et en fait, c'est ça qui va faire le buzz. Et en fait, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui.
Il y a un vrai problème comportemental. Et c'est souvent, en fait, on voit que la proportion de fake news est globalement partagée par des gens plus de 50 ans. En fait, il y a un problème comportemental qui est lié à une habitude. Beaucoup de gens, avant, lisaient les journaux. Et quand on lit un journal, l'information, même si elle peut avoir un biais, parce que le journal, il appartient à telle ou telle personne, peu importe. Il y a quand même une information qui est quand même une vraie curation avec des journalistes dont c'est le métier.
Ouais, tout à fait.
Et c'est pareil à la télé. Hein. Même si vous êtes pour ou contre la télé, globalement, en moyenne, l'information moyenne que vous verrez à la télé... Et genre, elle était travaillée avant et vous ne verrez pas du tout et n'importe quoi à la télé. Genre, des articles c'est qui vrai. N'ont aucun sens sanitairement parlant, vous ne les verrez pas à la télé.
Non, tu peux avoir du n'importe quoi à la télé.
Ah oui,
mais globalement, maintenant que t'as CNews,
oui, mais globalement,
il y a des gens qui sont sur des plateaux de télé et à qui on ne dit rien.
Le truc moyen, globalement, la télé ou les journaux papier.
Il y a quand même les rédactions sérieuses.
Et en fait, globalement, le consommateur moyen de contenu est habitué à être passif et à lire d'informations et je lis mon information. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont été éduqués, en fait, sans esprit autocritique. Ce que je vois, c'est du sérieux. Et donc, au final, tu mets ces gens-là qui n'ont jamais eu cet esprit critique sur des réseaux sociaux sur lesquels on a tout et n'importe quoi. Mais en fait, ils vont voir l'information et juste la prendre pour argent comptant.
Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a un problème de recherche de sources. Tu vois, ma belle-mère m'a sorti l'autre jour très, très, très calmement au sein d'une conversation. Non, mais de toute façon, on sait qu'il y a 30% des gens qui ont été vaccinés qui ont une sclérose en plaques.
What?
L'information est complètement aberrante. Tu vois, déjà, mais 30% des gens d'une classe d'âge qui ont une sclérose en plaques. Il faut me trouver des 30% d'une classe d'âge qui ont une sclérose en plaques. Tu les croises dans la rue. Tu vois. Et en fait, tu lui dis, mais t'as lu ça où? Bah, sur mon téléphone.
Ah oui.
Mais où? Bah, sur mon téléphone.
Donc ouais. C'est vrai.
Mais où? Bah, sur mon téléphone. Et en fait, la notion de comprendre la différence entre le média physique, qui est son putain de téléphone, et le qui écrit, la source, le site internet, ça lui passe à 20 bornes. Par contre, son téléphone, qui est une application à la con de je ne sais quel réseau social, en fait, lui, elle se trouve qu'elle est très naturopathie, machin, tout ça. Donc, en fait, elle tombe facilement, tu vois, dans cette espèce de goulbi-goulba.
anthroposophique machin.
À coup de soigner du Covid avec l'homéopathie.
C'est ça. Et en fait, du coup, lui présente de plus en plus ce type de contenu. Et en fait, petit à petit, elle s'enfonce dans un discours qui est de plus en plus aberrant, tu vois. Et en fait, c'est, je pense que c'est un problème d'éducation des gens,
bah oui.
Mais si c'est un problème de ces plateformes-là, de, en voulant maximiser la minute par utilisateur, sont en train de détruire notre démocratie.
Et les démocraties, ouais.
Tu vois, et aujourd'hui, vu que ce ne sont que des plateformes étrangères, on peut complètement qualifier ça d'attaque de l'étranger. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu prends la reprise, de, ce qui permet à des liens, et notamment à des liens de fake news, de monter dans ces classements-là, c'est quand même beaucoup des trucs qui ressemblent à des bots de plus en plus intelligents par ailleurs.
Et, oui.
Et quand tu compares, il y a des outils, hein, pour comparer des tweets, et assez rapidement, tu retrouves des graphes, c'est toujours le même. C'est des pseudo-anonymes, machin, tout ça, qui tweetent la même news au même moment. Enfin, je veux dire, c'est un script Python pété que je lance
avec ma machine avec de détecte. Des informations qui sont parfois à peine français, prises en photo sur une page A4 imprimée, et évidemment sans source, à coup de regarder le vaccin a tué tant de personnes, etc.
C'est ça. Et en fait, ces infos-là.
Ça se partage massivement derrière.
Moi, la question que je pose aux gens de chez Twitter, c'est pourquoi, si moi, avec un script Python pété disponible sur GitHub, je détecte le graphe de bot, comment vous, qui avez la base de données liée, ne la récupérez pas? Je me demande jusqu'à quel point on ne leur demande pas aux ingés qui font de la détection de fraude de laisser les vannes un peu ouvertes. Parce que ça fait de la minute.
Non,
de
moi
vue,
je pense que t'as une. Alors, le sujet Facebook et Twitter est assez différent. Facebook est une entreprise qui aujourd'hui a les moyens de se pencher au problème. Twitter, c'est un autre problème parce qu'en fait, on sait, vous et moi, qu'il y a une fuite massive des bons ingés chez Twitter. Et les gens qui restent chez Twitter aujourd'hui, c'est plus les gens de la vieille époque. Et donc, je pense vraiment qu'ils ont moins de ressources pour contrer ce problème-là.
C'est pas Twitter.
Une boîte rentable en plus.
Elle s'illustre pas par ses chiffres, Twitter.
Non.
Ouais, mais.
Elle a un gros CA, mais.
Ouais, mais tu vois, c'est un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, on avait parlé de. Tu sais, cette fraude qui avait eu lieu chez Uber sur les publicités Google. Et Uber qui se faisait taper 50 millions par mois, quand même, sur de la pub qui était de la fraude, tu vois, de chez Google. Mais Google, quand c'est quand même 40 points de ces 50 millions, quand même. Donc, quand tu t'encaisses 40% de 50 millions, tu te fais quand même quelques millions. Et en fait, il y a un moment où tu as envie de dire, si un script pété du client, donc à présent Uber, est capable de détecter la fraude, comment est-ce que les gens de la plateforme ne la détectent pas? Et tu te souviens, quand nous, on faisait de la data sur les chiffres Google et qu'on tombait sur des fraudes massives sur nos ads.
Ouais, je m'en souviens.
Qu'on pingait les mecs de Google et qu'ils disaient « Ah, merci de nous avoir aidés !» Tiens, genre, vous foutez de notre gueule, les mecs, quand même. Enfin,
le support moment... de Google était étonné de voir des chiffres erronés sur la plateforme d'ads. Ah bah, c'est bien.
Ah, merci de nous avoir aidés. Et en fait, t'as envie de dire, mais attendez, vous encaissez la commission quand même à chaque fois.
Ouais.
Vous voulez pas nous rendre au moins le fric de votre commission? Parce qu'en fait, l'histoire, elle est là. Et en fait, jusqu'à quel point ces gens-là ne s'aveuglent pas en interne parce que les sales ont besoin de faire leurs chiffres?
Évidemment.
Et je trouve que c'est très pervers, en fait, ce qui est en train de se passer. Et je pense très sincèrement que nos instances démocratiques devraient convoquer des enquêtes extrêmement sérieuses, sourcées, et pas de sociologues, de data analystes, qui exigeraient l'ouverture de données internes de ces plateformes-là, parce que là, c'est la mise en péril de notre démocratie. Et dans le Covid, on le voit, tu vois. Parce que là, les fake news qui tournent, elles sont quand même clairement pilotées par la Russie.
C'est un problème complexe. Et c'est compliqué de résoudre ce problème par la censure. Ouais. Mais déjà, il faudrait corriger vraiment les biais cognitifs sur les algos et les bulles.
Ouais, mais on l'a prouvé une première fois. Tu vois, Cambridge Analytica a quand même prouvé leur utilisation discutable des réseaux sociaux pour faire voter le Brexit. Et le Brexit a quand même été voté parce que Cambridge Analytica a bien fait son boulot de data manipulation. Et c'est quand même ça le résultat de, si tu prends toutes les audiences sur Cambridge Analytica, c'est une fraude massive qui a été faite contre le peuple anglais. Et aujourd'hui, quelles ont été les mesures prises contre les réseaux sociaux suite à ces brèches-là de leurs actions? Bah, ça va, ils s'en tirent bien pour finir, alors qu'ils font n'importe quoi.
Ouais, c'est un problème compliqué et qui est lié aussi à la bêtise de beaucoup d'utilisateurs de ces plateformes, en fait. Parce que désolé, mais bon, lire une page à 4 imprimée à l'arrache avec un truc à peine français et qui raconte n'importe quoi et croire ça argent comptant, bah, c'est pas très malin, tu vois.
Oui, et après tu tapes la loi Brandolini qui fait qu'une fois qu'on t'a raconté n'importe quoi, ça te prend une éternité de raconter le contraire.
Ben oui,
c'est ça.
Mais...
Et de toute façon, tu ne peux pas. Enfin, et toi d'ailleurs, quand tu vas dire oui, mais ils disent n'importe quoi, c'est ah oui, mais attends. Ces gens ont quand même un droit d'expression, enfin, respecte-les.
Oui,
ouais, mais genre, il a dit 2 plus 2, ça fait 3. Ben oui, alors.
Mais je
mais c'est faux, ça fait 4. Ben oui,
il a droit aberrant sur les ondes. Enfin,
pour ceux c'est qui suivent mon compte Twitter. C'est comme les anti-linky, mais genre, arrêtez, genre, il n'y a pas d'onde dans le truc.
Il n'y a pas de caméra. Enfin, et pourtant, non, c'est LED. Non, mais le débunkage qui a été c'est fait long. Sur l'anti-linky. Enfin, vous prenez quelqu'un comme Deus Ex Machina,
ouais, excellent.
Sur YouTube, le mec a démonté un compteur Linky qui vient pas de chez Inédis.
Il a analysé
pas un cadeau
toutes les trames qui passent en CPN.
Il le découpe. Enfin, il le découpe.
A mis pareil des capteurs extrêmement sensibles pour la radio. Genre, il y a juste pas d'émission radio.
Oui, rien. Il y a pas de webcam. Vous pouvez pas être filmé par un compteur qui a pas de webcam. Et en fait,
pointe vers l'extérieur ou dans votre.
Oui, puis il y a pas de webcam dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas de composant qui ressemble de près ou de loin à une webcam. Et en fait, je pense que c'est un point qui est hyper important. C'est il y a des gens qui font du débunkage. Je sais pas si vous connaissez l'association là qui bosse sur la zététique.
Pastèque.
Ouais, qui fait la tronche en biais. Ouais. Si vous connaissez pas, je peux vous mettre le lien du truc.
Enfin, très bien, la tronche en biais.
C'est des gens qui font un énorme boulot.
Ils ont un blog qui s'appelle La menace terroriste, qu'il faut lire aussi, qui est lié à chacune de leurs vidéos, si vous n'avez pas envie de vous taper la lecture. Mais voilà, en fait, c'est aussi des gens qui se sont fait un peu chabarder le terme d'esprit critique. Et l'esprit critique, aujourd'hui, il est porté par tout ce qui est anti-vax et compagnie. C'est tellement dommage. Donc
mais je pense que ce qui est important, je pense, en tant que technicien, c'est qu'on mette en jeu cette approche qui est d'essayer d'enfermer les gens, en fait, dans des bulles de communication pour les retenir. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est aujourd'hui
le
plus critique.
Justement, pour finir, on pourrait peut-être finir sur cette phrase-là. Il y a Étienne Klein qui a sorti une phrase de Nietzsche qu'il avait lue dans Humain, trop humain, qui disait « Nous déclarons aimer la vérité », ce qui est très bien. Mais ça ne doit pas nous pousser à toujours déclarer vrai les idées que nous aimons.
C'est très beau.
Je vous propose qu'on shot les quelques services là qu'on avait parce que là c'est un peu on n'y est pas totalement. Par contre, on peut peut-être finir sur les deux outils de l'épisode qu'on avait mis. Le premier outil d'épisode que j'avais gardé, c'est un truc qui s'appelle VS Codium.
VS Codium, oui, une application disponible sur quelle plateforme déjà?
VS Codium, c'est pour tout le monde. En fait, c'est VS Code moins les binaires de chez Microsoft. En fait, c'est le Chromium de Visual Studio Code. Donc VS Code, c'est donc l'IDE que vous connaissez moins les en fait le binaire que vous téléchargez de VS Code.
Oui,
son build n'est pas open source et dedans vous avez notamment des trackers de chez Microsoft. Et VS Codium, c'est les binaires
vidés
depuis la version open source, donc comme Chromium.
Tiens, c'est voilà. Bien ça, je vais télécharger.
Ouais, faut-il que le binaire que tu download soit clean, quoi. Bon, je leur fais confiance, mais
oui.
Tu peux aussi, je pense, builder ton VS Code toi-même.
Ça, moi, sur le builder vous-même, ouais, vous savez, maintenant, mon Linux se tourne sur Xarbo, hein, donc je vous le dirai. Non, mais attends, arrête. Je m'en sers. Il est là, regarde mon laptop.
Il est là, on est sur macOS là.
Oui, mais c'est parce que là, je fais de l'enregistrement machin et que
en vidéo, il est toujours sur macOS. Arrête.
Ouais. J'ai besoin d'iMovie pour l'exercice présent. Non, je me sers un peu de mon.
VS Codium que vous retrouvez sur github.com/vscodium/vscodium. Si vous voulez tester, télécharger.
Oui, vscodium.com.
Vscodium.com.
Voilà. Et. L'autre outil de l'épisode, vous utilisez GitLab chez Crisp ou pas?
Absolument.
Et comme nous, on est des gros utilisateurs de GitLab chez Clever, nous payons même la licence GitLab. Et nous avons par ailleurs un service de GitLab as a service qui s'appelle heptapod.host, parce qu'en fait, c'est un GitLab dans lequel on a rajouté avec nos amis d'Octobus. En fait, c'est un service qu'on fait avec les gens d'Octobus.
C'est un GitLab as a service qui est facturé à la console, donc c'est très bien.
Et en plus, il s'est parlé
à Mercurial.
Mercurial. ce qui peut te sembler aberrant, mais en fait, c'est hyper utile pour les gens qui font du machine learning, parce que Mercurial gère mieux les très gros dossiers, les gros, très gros fichiers.
Non, mais je vois.
T'as bossé chez Orange, tu connais Mercurial.
Ah non, nous, on avait pire. Hein. Soit du FTP, soit du SVN.
Et là, je vous mets un petit outil que j'utilise depuis quelques jours, que j'aime bien, qui s'appelle GitDoc. Et GitDoc, c'est un statut tray donc, qui marche sous Linux, sous Mac et sous Windows, qui vous donne accès à vos dernières to-do, l'activité actuelle de votre GitLab, vos derniers commits, les commentaires qui pop. En fait, c'est un peu votre assistant GitLab dans votre système tray. C'est propre, ça ressemble à du natif. J'ai l'impression que c'est
un bon gros Electron. Hein,
c'est du Electron ?
Oui, c'est Electron. En fait, vous avez un bon Electron
bien planqué.
Donc, c'est une application pour le système tray qui est censée faire 3 mégas, qui fait quand même 91 mégaoctets.
Attends, tu l'installes, elle fait 91 mégaoctets, mais après, il faut booter le Chromium. On sait, vous et moi, on en a parlé pendant cet épisode que.
Elle fait 205 mégaoctets.
Ce truc est lourd. Non, mais bon, pour MacBook, on fait du Chromium, enfin du Electron aussi chez Crisp, parce que ça nous coûterait beaucoup trop cher de faire une app Linux, une app Mac, une app Windows.
Oui, bien sûr.
Et donc, après, ça s'optimise en Electron.
Hein. Alors, juste pour dire, genre là, moi, lancé dans mon système, sa mémoire, la mémoire du truc est en dessous des 80 mecs.
Ouais, quand même, c'est un système très, hein. Quand tu le lances, ça sent quand même le diesel un peu.
Et par contre, il bouffe quand même 28 threads et il a quand même un temps de traitement assez élevé. Genre, il bouffe un peu quand même sur la mémoire de la machine. Mais écoutez, si vous utilisez beaucoup GitLab, je pense que ça peut être utile à des gens.
Mais il serait facilement nativisable, hein, en plus. Genre, l'app est toute simple.
Contribution ouverte.
Ouais, donc je pense que vraiment en natif, ça se fait. Ça se fait. Non, je ne me chaufferai pas, j'ai autre chose à faire. Mais si certains veulent se chauffer, je pense que c'est facilement nativisable. Et le code, oula. Ouais, donc là, ils injectent du HTML avec du execute JavaScript. Ça, c'est moyen quand même.
Bah, je ne peux pas la lancer finalement. Hein, je m'arrête là.
Oula!
On ne va pas commenter le code en live sur un.
La vue mélangée avec des calls API.
On ne va pas commenter.
Non! Mais en tout cas, c'est une belle idée.
Les gens ont le droit de coder comme ils veulent. Moi, j'ai trouvé l'outil sympa à utiliser. Tu vois.
C'est essentiel.
Installez-le à vos risques et périls.
Alors, moi, j'essaye désespérément d'accéder à ton lien de musique. Mais en fait.
C'est du YouTube.
Ouais.
Bon, ah oui, donc on passe à la musique, c'est ça?
Tu veux pas le lancer sur ta machine? Parce que là, j'arrive pas à le lancer. Parce qu'il y a une. Ouais, parce qu'il faut que je regarde mon âge sur YouTube. Je sais pas ce que t'as dans cette vidéo.
Rien, c'est une vidéo pour tout le monde. Hein. Elle est pas limitée aux plus de 18 ans. Je la joue ou pas la vidéo?
Ah bah oui.
Attends.
Le son va être dégueulasse.
Non, mais pas le son.
Bon, je mettrai pas le son, vous la mettrez.
Mais si, il faut qu'on puisse réagir dessus, vas-y. Allez.
C'est une reprise de par Chaka Ponk de Kids in America, donc de Kim Wilde. Et c'est une super reprise, genre ils l'ont vraiment reprise de manière assez rock. Elle fait quand même 3 millions 4 de vues sur YouTube. Donc en fait, ça a permis de faire connaître ce groupe aussi à l'étranger. Et genre, vraiment, ils ont géré.
2012, quand même.
Ouais, bientôt, c'est un peu.
Bientôt long. 10 ans quand même.
Tu vois, avec le petit coup de synthé très grave, façon années 80.
On reconnaît bien chaque apport. Il n'y a pas de doute.
Bon, vous irez voir le lien en commentaire. On passe à vous.
Non, on va faire qu'une seule recommandation musicale, on est bien. Eh bien, écoutez, merci
Allez,
beaucoup.
Réduis,
merci beaucoup de nous avoir suivis. On est désolé parce que là, je pense qu'on est sur un bon 2 heures quand même sur cet épisode. Merci Baptiste d'être venu.
Ça m'a fait plaisir d'être là.
C'était pertinent.
Ouais.
Dites-nous si vous avez trouvé le podcast pertinent ou pas. Ça va encore être un peu flaky sur les releases du podcast jusqu'à la fin août, le temps que tout le monde rentre, etc.
C'est l'été.
C'est l'été. Et puis, on vous retrouve après. Pour te retrouver, toi, c'est crisp.chat.
Exactement. Ou sur mon Twitter, @BaptisteGermain.
Toi, ce sera.
Et moi, ce sera toujours sur Twitter aussi, Cénivol. Voilà.
Et puis moi, sur Twitter, le fameux pseudo imprononçable.
Qui est imprononçable,
écrit. W-A-X-Z-C-E. Mais si, W-A-X-Z-C-E.
Non, mais il a un QWERTY, donc du coup, c'est tout de suite pété.
Voilà, merci pour la précision.
Et puis, merci à tous, à bientôt. Et puis,
bonnes vacances.
Bonnes vacances.
À bientôt.